I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir et bienvenue dans le Laisse-moi kiffer numéro 159. Incroyable déjà. Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle et votre taulière du podcast depuis qu'Alix Martineau est parti. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi et qui donc ont deux ou trois épisodes de retard, donc pourquoi vous écoutez cet épisode-là ? Remontez finalement, rattrapez votre retard. Et aujourd'hui, grande nouvelle, excellente nouvelle, qui je le sais va ravir les LM Crado de France, de Navarre et de New York, puisque she is back. Karl Rampfel est dans la place. Et elle n'a pas baissé de voir.
Bonjour!
Welcome back, Alix!
Oh, merci! J'adore parce qu'on fait vraiment comme si je venais de réarriver alors que ça fait 4
grave.
Jours!
Mais moi, tu n'es pas 100% revenu tant que tu n'es pas revenu au micro de Laisse-moi kiffer, tu
C'est
vois.
Vrai.
C'est un et peu ben... si l'arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a pas de jingle derrière, est-ce qu'il est vraiment tombé quoi?
Sans oui, Kalindi, non!
Oh là là, je suis contente d'être ici! J'avoue que je suis un peu triste de ne pas voir ma petite fillotte, Alix Martineau,
bah oui.
Mais remplacée par un jeune homme qui m'a l'air charmant. Cyril.
Mathieu.
Mais oui, je suis contente d'être là.
Welcome back.
Merci de me réaccueillir.
Je te le dis, il y a un nouveau... Ouais. Attention, je sais que t'adores le changement dans la LMK.
C'est pas un nouveau segment.
Non, c'est pas un nouveau segment, c'est un remplacement. Comme tu le sais, Alix, dans tout son temps qu'elle avait et dans sa grande générosité, nous faisait des présentations personnalisées à chaque épisode. Est-ce que j'ai ce temps ? Non. J'en ai fait une fois pour Alix, c'était vraiment last minute. Je n'ai pas le temps de les faire toutes les semaines. Du coup, j'ai décidé de faire un nouveau concept pour que les gens se présentent à chaque fois avec une question un peu random. Donc la première édition, c'était... Quel serait votre patronus ? On a une autre question pour cette fois-ci afin de présenter la team.
Trop hâte.
Je vais commencer avec toi, Kalindi.
Oh non !
Comme ça, les autres peuvent
je
réfléchir.
Commencer.
Mais non, mais parce que c'est une question un peu pour toi, tu vois. Parce que
Oula.
Je me suis dit, ta réponse va être probablement plus intéressante que la mienne. Si tu étais un légume, tu serais lequel ?
Alors, je serais pas un petit pois, c'est
du
une certitude. ni un maïs. Je serais pas un légume fourbe, ça vous le savez. Je serais sans doute... Je réfléchis, un légume. Je pense que je serais un légume assez doux, comme un potimarron.
Oh.
Parce qu'il a l'air un peu agressif de par son aspect, tu vois, très
vif. De par l'épaisseur
vif,
de sa peau.
De par la rugosité de sa peau. On dit la rugosité. et puis finalement, bonne surprise, il s'avère assez doux, souple en bouche et facile à cuisiner. Et en plus, il est l'ami de vos intestins.
C'est tout ce que je pense de toi, au mot près.
Tu es de la mine dans un intestin.
Exactement.
Et souple en bouche.
Non, mais tu sais, j'ai appris que le potimarron était excellent quand même pour tout ce qui était côlon irritable. Et c'est mon médecin qui m'a dit, en fait, bon, je souffre du côlon irritable, comme 10% des Français. Et
pourquoi la Michèle Simès
Et en fait, de manger du potimarron, ça t'aide un petit peu à adoucir tes intestins qui sont souvent irrités, quoi.
Trop
voilà,
bien.
Donc... non, je serais un potimarron, ouais.
Très bien. Mais
c'est pas très exotique, j'aurais pu dire un lalo. Alors, un lalo, c'est un gombo en français, lalo, c'est en créole, et en anglais, c'est lady's finger. Voilà, je vous donne toutes les...
Là aussi en mandarin, ou...
Je comprends, hein.
Et j'adore ce que ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petite, c'est un espèce de haricot que tu coupes en petits morceaux et après tu le fais frire avec des machins. Et pareil, c'est très étonnant parce que ça n'a pas du tout l'intérieur de son extérieur. Comprenez ?
Oui.
Voilà.
Alors que tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Merci beaucoup.
Aïda, welcome back dans LMK.
Et oui, welcome back, 2 semaines de suite.
Et oui.
Très dur de trouver 2 kiffs d'affilée.
Non.
Parce que tu n'aimes
J'espère
rien.
J'espère que t'as plus d'un élément un
si
peu
on
cool
appelait...
dans ta semaine, quand même, c'est 7 jours entiers.
Si on appelait ce podcast « Laisse-moi semer », ça marcherait beaucoup mieux pour
laisse-moi
moi.
Laisse-moi être salé, laisse-moi râler.
J'aurais beaucoup trop de trucs à aligner chaque semaine.
Déjà oui.
Alors, bah, rien qu'Aligny,
elle fait 4 heures d'épisode,
aujourd'hui.
Donc c'est long, quoi.
La chanson que je maudis cette semaine...
Oh,
Quel excellent segment.
J'ai un peu envie qu'on fasse une édition spéciale Jour des Contraires.
Franchement, ouais.
Ça fait vraiment 4 ans qu'on dit ça.
Pour le prochain confinement.
Mais on l'a jamais fait.
On l'a jamais fait.
Il est temps d'avoir le courage de nos convictions.
Oui.
À suivre dans LMK. Vous verrez.
J'ai hâte. Alors, moi, si j'étais un légume, en vrai, quand t'as posé la question, je me suis immédiatement dit, je suis une patate douce.
Immédiatement,
en une seconde.
C'était évident, en fait.
Je sais pas, ça a une couleur un peu fun. Il y a un aspect un peu pareil, tu vois, une peau un peu épaisse à l'extérieur, mais en même temps, c'est fondant, ça va avec plein de trucs. Ça a un goût reconnaissable, mais un peu doux, amer et tout. J'étais là, ok, ça, c'est moi. Mais en fait, la patate douce, c'est une légumineuse, oui c'est ça,
c'est vrai,
ce n'est pas un légume,
tubercule.
Ouais.
Et du coup ensuite j'ai paniqué.
C'est un féculent, wesh, non?
Ouais. Ouais, ouais, c'est un féculent, ouais.
Non, c'est un truc, c'est un légumineux, une légumineuse. Non, je ne sais pas comment on gère cette chose.
Moi je suis type féculent parce que la patate tout court c'est un féculent.
Bah ouais, mais c'est pas pareil.
Bah pourquoi?
Ok, les botanistes, vous nous direz.
C'est qu'est-ce qu'une patate douce.
On pourrait chercher, mais après, on aurait 100% des infos, ce serait dommage.
Ce serait plus podcast.
Non, mais t'inquiète, chaque semaine, les gens, ils m'engueulent déjà sur les animaux en disant qu'on dit absolument n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui me corrigent en disant, en fait, c'est pas des corbeaux, c'est des corneilles. Ou alors, ah ouais, vous cherchiez un mammifère qui vole, la chauve-souris. Je me dis, mais putain, mais pourquoi on n'y a pas pensé?
Écoutez, les gens, vous écoutez, laisse-moi kiffer, c'est l'épisode 159. Si vous voulez des gens qui savent de quoi ils parlent, allez écouter France Culture. Nous, on va donner des infos erronées. La moitié du temps, mais on va pas vous dire quelle moitié parce que nous-mêmes on le sait pas. C'est la vie de LMK, c'est le deal.
Donc, c'est bien pour des journalistes.
J'ai bugué mon cerveau avec mammifères qui volent, je suis vraiment en train d'en chercher un autre. J'étais là, si
nous reviendrons vers vous, Kalindi.
L'incompétence comme ligne éditoriale, c'est quand même incroyable.
Toujours une bonne tagline de LMK.
Donc la patate douce n'est pas un légume, et donc ça fait 4 minutes que je panique en me demandant quel légume je connais. Évidemment, maintenant que j'y pense, zéro. Je pense qu'il y a des trucs que je déteste. Légume. Non, mais les blettes, c'est dégueulasse. Je peux pas dire blettes. Ouais, mais je pense à aucun autre légume. Bah,
si t'es une patate douce, t'es un peu une carotte.
Ah non.
Bah, je suis désolée, ça se marie hyper bien.
Non.
Est-ce que la patate douce est persillée comme la carotte? Je crois pas. Donc, aucun rapport.
Non, mais déjà, les carottes, ça a le goût moisi 50% du temps.
Alors, j'allais prendre la carotte, mais je change de choix.
Si tu les manges à temps, ça n'arrive pas.
Non, ça a un goût. Quand c'est mal cuit, ça a le goût de moisi. C'était.
Voilà, c'est mal cuit, c'est ta faute. Tu blâmes pas les carottes pour tes mauvais choix.
Merci Mathis. Les carottes moisies, c'est je les cuisine mal, je les déteste.
Écoutez, la patate douce c'est bon tout le temps, les carottes c'est dégueu la moitié du temps.
Et
si vous voulez juger, jugez-moi.
Mais bien sûr, les gens vont juger. Mais
t'es quel légume?
Mais je sais pas, dites-moi des noms de légumes là.
Mais t'en as cité 58 avant qu'on enregistre là, t'as mangé un bol avec.
Ah oui, c'est vrai.
Ça peut pas être un radis, c'est super le radis.
Non, c'est trop aigu comme goût. Je pense que je correspond pas à la vibe du radis. Non, mais une courgette c'est bien. Non, c'est trop fade.
Non, mais c'est boring.
Ça me correspond pas du tout.
C'est quoi? Je te propose une dernière option. Fenouil. Et si ça, ah non, mais vous allez tous me faire chier parce que les tomates c'est des fruits.
Oui.
Oui.
Ah, mais je peux être un fenouil, tu vois.
Je peux être un fenouil.
C'est rare, surprenant.
Vraiment, vous avez pas le visuel, mais elle est écroulée dans son canapé.
T'es un fenouil. Je suis désolée, mais tu es un fenouil. Ça se voit. C'est un fenouil.
Physiquement, je suis un fenouil, je pense. Ouais.
Bah surtout là.
Et mentalement.
Un fenouil triste.
Un fenouil triste.
Je sais pas.
Mais un petit fenouil triste.
Mais c'est pas mieux s'il est petit.
La dernière fois, il m'a dit que j'avais des yeux de chien. Maintenant, il dit que je suis un fenouil triste.
Non, j'ai pas dit que t'avais des yeux de chien. J'ai dit que t'avais des yeux de berger allemand. Ça n'a rien à voir.
Mais c'est un chien.
C'est pire.
Oui. Mais
non,
c'est
sympa les bergers allemands.
Ça a des problèmes d'arrière-train passé 10 ans. Non, mais c'est vrai.
Ça aurait dû être là pour l'épisode sur les animaux.
Attendez, mais je voudrais juste dire quelque chose.
Sur les mammifères volants, c'est ça?
C'était quoi? Non, c'est pas ça. Ah, tu m'as niqué. Attends. Bon,
Fenouille triste.
Fenouille triste. Ouais, l'autre jour, j'ai dit à un gars qui ressemblait à Vianney endormi. Il était genre vexé.
Bah
et
oui.
Vianney a tout le temps l'air un peu endormi, donc.
Non, mais là, c'était pire du coup.
Ah oui.
Et deuxième chose, l'autre jour, je vais peser mes légumes. Et donc, j'avais pris des tomates noires côtelées, tu vois. Je les mets sur le pèse-légumes et je vais dans fruits, puisque c'est un fruit. Et donc, je passe un quart d'heure à chercher, je vois pas la tomate. Donc, j'appelle un gars et je me dis, chez moi, il y a pas la tomate.
Il a crié dessus.
Non, parce qu'excusez-moi, monsieur, la tomate étant un fruit, je suis dans la catégorie fruit et elle n'est pas là. Une erreur de votre part,
peut-être. Et le mec me dit, bah, ça doit être dans légumes. Alors, je vais voir dans légumes, mais effectivement, il était dans légumes. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que les gens qui éditent ce logiciel sont des incapables qui ne savent pas que la tomate est un fruit? Ou bien est-ce que, comme ils savent que les trois quarts des gens pensent que c'est un légume, ils veulent pas vexer les gens? Donc dites-moi si vous êtes les gars qui éditez les logiciels de fruits et légumes.
Répondez-nous.
Si vous faites les logiciels pour les balances à légumes dans les supermarchés et que vous classez qu'est-ce qui va où, parce que ça se trouve le mec il fait juste la pesée, tu vois, ça va pas servir. N'hésitez pas à nous expliquer pourquoi vous mettez les tomates dans les légumes. Personnellement, je vais chercher les tomates dans les légumes car je sais qu'en vrai, en France, légumes ça veut dire c'est salé et fruits ça veut dire c'est sucré.
Et tomates c'est la vie. C'est sucré. Voilà. Mais bon, on va pas rentrer
mais
dans
ça se mange salé. Tu mets pas, tu manges pas tes, enfin tu manges tes tomates avec du sel et du cumin et de l'huile d'olive, pas avec de la cassonade rôtie au four.
Tu peux manger ça avec du sucre.
Tu peux.
Mais qui le fait?
Contrario.
Personne.
Bah nous, on fait une confiture de tomates cerises avec Élise par exemple.
Voilà.
Mais est-ce Élise, que c'est la façon voilà. majoritaire dont les gens mangent des tomates? Je veux dire, tu peux faire rôtir des abricots avec du poulet, ça veut pas dire que c'est un légume, tu vois, ça reste un
peu... La mauvaise foi de cette femme est sans limite.
Ah, c'est déjà long. Un fenouil. Pourquoi un fenouil?
Parce que c'est un peu fun comme aliment, ça... Ça ressemble pas à ce qu'on imagine. Genre,
c'est un peu clivant le fenouil. Hein.
Mmh. Bah ouais.
Mais tous les trucs anisés sont toujours clivants.
De ouf. Ouais, mais c'est un peu sucré salé. Ça croque. Ça a une forme super marrante. On dirait un petit arbre chelou.
Très dodu.
Grave. Je l'adore.
Bien sûr.
T'es quoi comme légume, Mathis?
Bah moi j'étais partie sur la carotte, mais elle l'a défoncée donc j'ai plus trop envie.
Ah, c'est pour ça que t'étais remontée contre
voilà.
la carotte.
Mais je suis remontée contre la carotte, tout à fait. Je sais pas, peut-être un oignon en disant ah là là, je fais pleurer les gens, je sais pas, mais j'arrive pas à être spirituelle aujourd'hui donc voilà.
Mais tu fais pleurer des gens?
Bah parfois, comme tout le monde, je sais pas.
Oui, pas plus que d'autres quoi.
Non mais pas plus, enfin pas genre délibérément, genre je fais pas des croche-pieds aux petites vieilles dans le métro, mais.
Tu sais, tu peux être un oignon nouveau. Parce que c'est grand et fin et que c'est plus sympa que les oignons. Ah. Tu sais, les oignons nouveaux, c'est les petits blancs qui ont les grandes tiges vertes, là, qui se mangent plus souvent crus.
J'ai cherché un légume gentrifié un peu comme ça, mais... Je l'ai pas trouvé.
C'est vrai que c'est légumes un peu gentrifié, les oignons
nouveaux. Vraiment, tu les demandes que dans les magasins bio et le mec te fait un air totalement entendu en mode « Ouais, je paye le même loyer que toi, tu vois. »
Ouais, ouais.
Vraiment en mode... je sais pas. Mais je mange pas assez de légumes pour ça, donc voilà.
Un oignon de Naturalia, du coup. C'est très précis.
Plutôt Biocoop.
Ah ok.
Il paraît que Naturalia c'est un gros groupe qui appartient à un autre gros groupe. Alors
que Biocoop, cette petite entreprise ma foi artisanale de 3 personnes.
Non, mais il y en a certains. Alors c'est compliqué Biocoop, mais je crois qu'il y en a certains qui sont des coopératives. Et non, je ne suis pas sponsorisé pour.
Mais Biocoop, si vous voulez sponsoriser LMK,
ah bah,
appelez-nous.
Hein.
Naturalia aussi.
Ah bah,
on prend
nous,
on prend les deux.
Ah ouais,
voilà.
Et puis des paniers légumes, moi je prends. Hein.
Ah oui. Ah oui.
Puis vous expliquerez à Mimi qu'on peut manger des tomates en dessert.
Voilà.
Tout à fait. Faites-moi des fiches recettes. Peut-être
étriquée.
Que ce sera mon kiff, les tomates sucrées. Probablement pas, car je ne mange pas de sucré. Merci Mathis.
Mais avec plaisir.
Pour
toi,
ma part, je suis un bok choy.
Oh,
c'est-à-dire
c'est un petit chou asiatique qui, dans ma tête, était un légume de bobo jusqu'à ce que j'en trouve à Lidl. Et ça, c'était ma passion. Mais c'est Lidl de bobo de Père-Lachaise
bah,
à Paris.
Ça.
Donc,
parce que
ça
Lidl,
aide.
C'est gentrifié maintenant.
Ça se gentrifie,
genre,
mais ils
les
ont
gens,
souvent
ils ont
du
les
bok choy.
Lidl, quoi.
J'ai envie de creuser des chaussettes Lidl.
Ça va caler.
Et donc, le bok choy est un petit chou qui déjà me correspond car je suis petite et chou. Et aussi parce que il est très simple, mais il se suffit à lui-même. Ma façon préférée de manger du bok choy, c'est de le couper en deux, de le foutre dans l'huile sur une poêle avec un peu d'huile d'olive et de mettre sel, poivre et c'est parti, et un peu de gingembre. Et du coup, c'est tout ce qui lui suffit car finalement, il est déjà délicieux et rafraîchissant. Donc j'aime bien le bok choy. Et c'est un de ces légumes un peu cool, genre quand j'en ai chez moi, je me sens cool de manger des légumes. Alors quand j'ai des carottes, je me dis bah j'ai des carottes, j'ai des légumes, c'est des légumes normaux, tu vois. Le bok choy, c'est un peu original. À la base, j'en voyais que dans les mangas que je lisais quand j'étais gamine. Je savais même pas quel goût ça avait. Et du coup, maintenant, ça fait partie de ma vie. Incroyable. Donc, je suis un bok choy. N'hésitez pas à nous dire quels légumes vous êtes, les LM Crado. Ça nous intéresse beaucoup.
Beaucoup.
La team. Kalindi.
Oui.
Est-ce que tu as un commentaire?
Oui, bien sûr.
Incroyable.
Ça fait 4 ans.
Moi, je ferais dire que j'ai toujours un commentaire.
Toujours.
Alors.
Même après 8 ans d'absence, elle a un commentaire.
Alors, c'est une personne qui s'appelle A Rolling Stone. Salut! Voilà un petit message pour toute l'équipe LMK. Je suis grave à la bourre pour le podcast, mais c'est vraiment un plaisir de vous écouter en voiture le matin et le soir aussi. Lorsque je pars travailler et que je rentre du boulot, c'est ma dernière semaine de boulot et JPP, j'aurais voulu avoir l'idée d'écouter les podcasts bien avant, car je commence et termine mes journées avec le smile. Gros bisous à tous, vous êtes incroyables. Surtout que ce matin, j'ai eu une urgence vraiment relou et vous entendre m'a vraiment fait du bien. Et du coup, j'écouterai ce commentaire que dans quelques semaines, quand j'aurai rattrapé les épisodes. Lol.
Oh, ah. C'est chou.
Merci
bon
à
courage, Rolling Stone.
Mais il a vachement longtemps de voiture.
Oui.
C'est super long comme route pour aller au travail. Je suis désolée, ça me fait tic. J'espère que c'est pas les épisodes Twitch qu'il écoute parce que là, ça fait long le commute quand même.
C'est vrai. Et en même temps, elle dit que c'est sa dernière semaine de boulot, donc on espère qu'il y aura moins de trajets à l'avenir pour
Après,
le prochain boulot.
Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui prend large et qui fait tout en première, tu vois. Mais
en première.
Oui, mais j'écoute le podcast.
J'ai fait comme si je comprenais cette blague de voiture, mais non.
Bah, la première, quoi.
La vitesse, première vitesse, c'est quand
oui,
tu roules pas vite.
Tu vas pas vite.
En gros, plus tu vas vite, plus tu montes les vitesses.
Ouais.
En gros, je dis ça, j'ai raté mon permis, mais bon. Vous me corrigerez, bien sûr, si je n'ai pas 100% des infos. Aïda, est-ce que tu as un commentaire maintenant que tu commences à être une habituée de LMK ?
Oui, j'ai un commentaire et je vais le lire dans une seconde. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de gagner du temps en vous décrivant chaque chose que je fais. J'ai un commentaire express parce que c'est un commentaire sur le podcast que nous avons enregistré la semaine dernière mais qui est sorti ce matin et
tout
que j'ai reçu entre ce matin et maintenant alors qu'il est, il est 14h30 de quelqu'un qui s'appelle @la_tannery sur Instagram et son at est très important parce que cette personne a entendu mon cri du cœur et mon appel à l'aide dans le dernier épisode quand j'ai dit oui j'ai acheté un casque mais il est moche, envoyez-moi des stickers pour que je le décore en envoyant ça comme une blague en imaginant que personne m'en enverrait parce qu'après tout tout le monde a des choses à faire dans cette vie à part m'envoyer des choses. Et la tannerie a décidé qu'elle avait envie de m'envoyer des choses dans sa to-do list. Et donc, elle m'a envoyé un message pour me dire « J'ai une seule question, comment faire pour t'envoyer des stickers pour ton casque de roller ?»
Oh.
Et moi, j'ai répondu « Merci, je t'aime.
Oui. »
et je vous invite à aller voir son compte Insta parce qu'en vrai, elle est aussi tatoueuse et elle fait des trucs extrêmement stylés. Donc voilà, j'ai hâte de devenir un panneau publicitaire ambulant pour @la_tannery.
Mais on peut peut-être dire aux gens qui peuvent t'envoyer des stickers ici. Comme ça, on donne pas ton adresse, mais on. Enfin,
oui, j'ai filé l'adresse de la rédac. J'ai...
Très bien. Donc, si vous voulez envoyer des stickers à Aïda, qui bientôt n'aura plus de place sur son casque, à mon avis,
ou à quelqu'un
envoyez-les
d'autre, hein.
À Aïda chez Mademoiselle, 137 boulevard de Sébastopol, 75002, Paris. Vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas. On les mettra sur, on les mettra en story sur le compte de LMK. On mettra le produit fini et on essaiera de hâte tout le monde. Ça va être bordélique.
On va faire un shooting avec le casque.
Yes.
C'est ça qu'on veut.
Oh yes, on vous fera un petit défilé.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un casque de roller ?
C'est un casque pour te protéger la tête si tu tombes en roller.
C'est un casque comme un casque
c'est
de vélo, quoi.
Vélo, ouais,
je crois
ça.
Que c'était un casque pour écouter de la musique pendant qu'on faisait du roller, mais qui laissait un peu passer le bruit. Ok, j'ai compris.
T'as été dans une hypothèse complexe. Pour un problème simple.
Non, parce que l'autre jour, je suis tombée sur une pub sur Instagram. Alors là, vraiment.
Ah, les pubs Instagram, toujours les meilleures.
Toute ma vie. Et en fait, c'était un bandeau casque. Et donc,
je l'ai tout le temps sur Reddit.
Tu l'as vu ? Ça a l'air génial. J'ai trop envie de dépenser.
Mais c'est pour dormir avec ses écouteurs, c'est ça ?
En fait, c'est pour dormir. Donc c'est un bandeau qui j'imagine est plutôt confortable, bien que peut-être non. Et en fait, il te diffuse de la musique, mais tranquillo, tu vois, et pas directement. Ça se, tu vois, ça fait un peu le tour de ta tête, j'imagine. Que,
ah,
voilà,
c'est pas genre une... dans ton oreille, c'est
non,
un
voilà,
peu plus
c'est
diffus.
Ça.
Ça
et c'est censé être pour te faire écouter de la musique, pour t'endormir sans avoir des écouteurs et te faire mal aux oreilles et tout. Ça a l'air super pas indispensable, mais j'ai très envie de l'acheter.
Moi aussi.
En vrai, ça me fait un peu chier que t'en parles parce que ma meilleure pote Soraya écoute ce podcast, je t'embrasse Soso, et que ça fait partie de ma liste d'idées cadeaux pour Soso parce qu'elle s'endort beaucoup avec un épisode de série ou un bruit de fond. Et du coup, la go, vraiment, elle met des écouteurs pour s'endormir, des écouteurs filaires, et je suis là, mais fraté, tu tournes, tu dors et tout. Elle fait, ouais, bah, je me réveille, mes écouteurs, ils ont fini par partir. Mais je sais pas comment ça se passe. Je suis là, ça doit être très inconfortable quand même.
Ouais, grave.
Non, donc écoute Soraya, ne google pas bandeau écouteurs, je t'en offrirai peut-être un, ne t'en achète pas. Mais ça a l'air très cool.
C'est génial.
Ça enfin, me ça tente un peu. Ça a l'air sur les pubs Instagram, évidemment. À voir si dans c'est la ça. Vie, c'est cool. Très bien, envoyez vos stickers à Aïda. Mathis. As-tu un commentaire ?
Bonjour.
Bonjour,
j'ai mon premier commentaire.
Oh my God !
J'ai versé ma larmiche. Non, ça va, mais j'étais ému, c'était touchant, c'était gentil. J'ai donc un commentaire de Loulou qui a un petit emoji grenouille, ce qui est absolument adorable,
oui.
Dans son nom Instagram et dont le at est Loulou Gentillet, comme yeah.
Ah, okay. Gentillet.
Les Jeunes qui disent yeah, ça, j'adore.
Les Jeunes.
T'as quel âge, Mathis ?
34
pas l'âge
ans.
De dire Jeunes au premier degré.
C'est ça, c'est bien ce qui me semblait.
Mais il se fout de ma gueule, là.
Et puis, non, mais t'es comme moi, t'es une
le
vieille âme dans un jeune corps.
Tout à fait.
J'adore les vieilles âmes.
Mais bien sûr. Moi, je rentre en fiacre, toujours.
T'es pas allé parler de bec à gaz et de vos rhumatismes après le podcast, hein.
Bah, moi, j'ai n'empêche que j'ai de l'arthrite, hein. Le long de ma colonne vertébrale.
Très bien.
Donc
je
crois que mon corps est en train d'essayer de me faire comprendre que j'avais raison depuis toujours et que je suis une vieille dame.
Ton corps rattrape son âme.
C'est waouh.
Wow.
Le titre de mon nouveau roman.
Ou ton âme corrompt ton corps.
C'est
j'aime
encore
bien
mieux.
Parce que c'est un peu drama.
C'est trop.
Ça fait un peu Dorian Gray, tu vois. Oh, j'aime bien.
Moi, je suis une très jeune âme dans un très vieux corps. Du coup, j'aimerais bien que ça me fasse comme toi et que mon corps rajeunisse un peu.
Et donc ce commentaire réagissait à ce que je racontais par rapport à Ruby qui, contextualisation, est mon chien et qui, contextualisation numéro 2, mange n'importe quoi, comme beaucoup de chiens et comme visiblement les chats aussi. Donc le commentaire de Loulou c'est « Hello Mathis, je suis en train d'écouter LMK et déjà Je tu es trop chouette. Bon, j'avais pas fait attention à ça la première fois. Faut se relire, hein. Attention, hein, sur les commentaires. Parce que là, ça va, j'ai
attendez,
pas
encore
masse de choix.
Attendez, nous, on vous fait un podcast hyper carré, et voilà, hyper sourcé, et ben voilà, millimétré, et ça se relit pas dans les commentaires. Après, on a l'air bête.
Voilà, donc j'ai l'air de quoi maintenant? D'un incompétent. Je vais être viré de mon alternance.
Au moins.
Déjà, je tu es trop chouette. Bon, on comprend l'idée, ceci dit. Hein, voilà. J'adore ta personnalité, tu es solaire. Ça, c'est vrai. Enfin, bref, je voulais rebondir sur.
C'est pas
sur
toi de
ton...
le dire, ça.
Bah, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais je
la
suis solaire.
La personne qui se jette le plus de fleurs de France.
Attendez, je crève de chaud depuis ce matin. Si je suis pas solaire, je comprends pas ce que je suis. Enfin, bref, je voulais rebondir sur ton anecdote de chien glouton, car j'ai un chat glouton et que c'est un enfer. Elle bouffe tout, mes lacets élastiques à cheveux, etc. Pour ne garder que ce qui m'a conduit chez le véto un 31 décembre, elle a bouffé un coton-tige et après genre 15 vomitos en 5 heures, j'ai été chez le véto de garde et il m'a mis un warning sur le fait que ça pouvait se reproduire et wait, c'est ce qui s'est produit avec un fil à coudre de 6 mètres qui s'est coincé à la base de la langue et qui s'est déroulé dans tout son tube digestif, causant occlusion et nécrose un peu partout. 5 heures d'opération, 8 jours d'hosto, j'ai cru qu'elle allait mourir mais elle s'est battue comme une ouf et les vétos étaient incroyables et tout va bien, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'espère que Ruby n'aura pas d'autres problèmes, pardon, qu'être un semi-lapin. Elle est trop chou. Bisous, car mon chien est un semi-lapin, mais tu rattraperas cette étape-là. C'est un peu étrange. Et donc, elle m'a envoyé une petite photo du chat qui est absolument adorable, en effet, et qui n'a pas l'air
fait
de comprendre
voir le
du
chat
tout
qui
pourquoi
a
on le prend en photo.
C'est un chat très mignon, je vous le dis. Il est dans
adorable.
Un pot tout rond.
Bicette, il est trop mignon.
Et oui.
Ah oui,
ah, j'avoue,
ça, c'est la voix
oreilles.
Animaux de Kalindi. Je sais pas si vous l'aviez déjà eue dans LMK, elle sursaute un peu. Et elle est très contente.
Bonjour. Mais alors, attends, moi je croyais que mon chat était un ouf parce qu'il mangeait des cèpes, mais en fait. Les...
Non,
celui-là il est très con.
Il y a vraiment du niveau, c'est terrible. Ouais.
Ça a dû lui coûter 1 million.
Ouais. Toi, t'as vu, mais t'es vraiment la pire dame. Ouais. Vraiment le côté pragmatique de ce podcast.
Ça coûte cher quand même, hein, les animaux qui décèdent. Hein.
Mais non, mais moi, j'ai un chat qui est épileptique et qui va chez le véto tous les mois, globalement.
Faut pas l'emmener, bien placé pour l'emmener au laser game aussi, ton chat.
Non, mais ouais, enfin, le bruit et le stress lui déclenchent des crises, du coup, il fait des crises régulièrement.
Bichon.
C'est pas grave, il a l'habitude, ça, maintenant, il s'en sort bien. Mais
je savais pas que les animaux pouvaient être épileptiques aussi.
C'est fou, je te rends compte, c'est compliqué.
L'enfer.
Bah, le mien, ça va, il le vit plutôt bien, mais en plus de ça, il s'avère qu'il est genre super mou et qu'il veut se battre avec personne. Enfin, tu sais, dès qu'il croise d'autres chats dans le quartier, il se met sur le ventre et il essaye de jouer avec eux et les autres chats, ils le démontent, tu vois.
Oh non.
Donc en fait, il faut que j'aille chercher ses médocs pour l'épilepsie et il faut que je l'emmène chez le véto toutes les 3 semaines parce qu'il s'est fait démonter la gueule par un chat alors que lui était là, copain. Et donc.
Bicette
oui,
trop. Mais viens faire un goûter avec ton chat chez moi parce que mon chat, c'est pareil, il n'arrive jamais à se faire des copains parce qu'il est trop gentil. Alors, c'est un fils de pute avec les humains.
Je confirme. Il a mis une petite droite quand même. Alors qu'il est tout petit mignon Bicette.
Alors c'est un trou du cul avec les humains et avec les chats il est tout gentil, pareil il fait copain. Et un jour j'ai gardé la saloperie de chat d'Alix Martineau qui est vraiment une saloperie.
Je l'ai vu et je confirme.
Non, mais, ouais, saloperie de chat. Et bon, je t'aime quand même, Coppola Star. Et en gros, mon chat allait tout le temps courir après Coppola Star pour lui mettre des petites tapes sur les fesses pour jouer avec lui. L'autre se retournait, lui hurlait dessus et tout, ça faisait grave peur. Et donc, mon chat cherche un copain parce qu'il est copain qu'avec le chien du 3e étage, mais qu'il ignore un peu. Enfin bon, bref. Donc, viens avec ton chat à la maison.
Oh, grave, vas-y, ensemble, donc. Ce sera trop mignon.
Ouais.
Moi, mon chien, il est sociable, gentil, mais avec la version énergie nerveuse. Mais en effet, alors il y a des autres chiens qui sont très contents de le voir et qui en balade sont tout dingo. Et toi, tu passes 20 minutes à regarder le propriétaire dans le blanc des yeux parce que ton chien a décidé d'être stupide. Mais c'est chouette. Et par contre, il y a des moments où du coup, Ruby se prend des vents intersidérales, mais vrais
intersidéraux du coup.
Il y a des moments où Ruby se prend des vents intersidéraux. C'est insupportable, on n'avait pas invité l'Académie française dans ce podcast.
Est-ce que Jean-Dormesson, c'est le patronus de Kalindi?
Oui.
Non, c'est Chantal Latsou, le patronus de Kalindi.
C'est dur quand même. Mais vous savez que Julien Doré a Jean-Dormesson tatoué sur le bras. Hein.
Mais pourquoi? Pourquoi une random info sur Jean-Dormesson? Attendez, on est en train de se perdre, cette intro est trop longue.
Oui, parce que moi je voulais
Fini
une chimère Chantal Latsou, Jean-Dormesson en guise
la
de
la prochaine fois on fera
Kalindi.
Des chimères de personnalité, mais là on se perd.
Okay.
Fini sur ton chien.
Je parlais de mon chien.
Qui se prend des vents intersidéraux.
Oui, en fait, la dernière fois au dog park, donc il n'y a pas beaucoup de
parcs à chiens.
voilà, il y a pas beaucoup de parcs à chiens dans Paris, et donc il y en a un pas très loin de chez moi, et donc j'y vais et tout, et donc bah ça permet de courir, enfin de lâcher son chien un peu et puis de le laisser courir comme un gogol pendant 20 minutes et ça la fatigue un petit peu et après elle dort, c'est chouette. Sauf que donc elle croise là-bas un copain, donc elle est toute contente et fonce vers lui, sauf que le copain en question c'est un Jack Russell et les Jack Russell ils sont adorables avec les humains mais avec les autres chiens, ça dépend. Et bah là pour le coup celui-là il pas du tout sociable, mais c'est-à-dire pas sociable au point de ne pas la cala, mais de pas la cala, non, de ne pas la capter en fait, de pas la regarder du
ouais,
tout.
Ouais, on peut dire pas la cala.
Ouais, ça se dit. Hein.
Les Jones disent ça, je crois. Je l'ai vu sur TikTok.
Sur Skyblog, ouais. Et du coup, donc Ruby, en fait, le chien en fait aboyait sur son maître tant que son maître jetait pas la balle. Donc déjà, justement, ce niveau de caprice, ok. Et en effet, le maître jetait la balle. Enfin, moi, honnêtement, mon chien m'aboie dessus, il va juste rentrer, hein, c'est fini, caprice.
Tu es un bon maître, ouais. Tu es ferme.
Ouais, non, moi je serre la vis un petit peu, quand même. Et par contre, après, je lui donne des récompenses, enfin, elle est pourrie gâtée, mais c'est quand elle se comporte bien, quoi. Et donc, voilà, donc il aboie sur son maître, machin et tout, et donc à chaque fois, il courait comme un gros dératé vers la balle, et derrière lui, il y avait mon chien qui lui courait après
ah
en
non,
permanence, trop content
seul.
De participer, sauf que vraiment, le chien l'ignorait délibérément.
Ah non,
et Ruby, elle s'est fait toute sagement, elle était toute contente, elle vivait sa meilleure vie en mode, oh, j'ai bien sociabilisé aujourd'hui, c'est comme si vous parliez à des gens random dans le métro avec un casque, quoi. Enfin.
Ce que font des gens à Paris.
Ouais,
des gens à Paris.
Je me suis rendu compte en disant, c'est du harcèlement. Mauvais exemple.
Ou juste des personnes qui parfois
ouais. Mais Ruby,
ont une case
ouais.
ou deux qui clignotent quoi. Mais c'est
ouais,
pas
c'est ça. Mais voilà, donc, Ruby a un petit pet au casque et voilà, elle est très sociable et des fois les chiens vraiment sont en mode.
Gros mood Mimi ça en cours de PS quand même. Courir derrière la balle en pensant participer alors que vraiment non personne ne va te la donner, c'est des souvenirs.
Ouais, je relate. Je compatis beaucoup.
J'ai un commentaire pour ma part. J'en ai plusieurs, mais j'ai choisi celui qui est le plus à propos pour le moment où ce podcast sort. Donc si vous écoutez LMK deux ans après, désolé, vous allez être un peu à la ramasse. En même temps, vous aviez qu'à être à jour. C'est Mathilde Artiste qui me dit « Hello Mimi, je te remercie d'avoir conseillé d'écouter Game of Roll et je remercie aussi la personne du commentaire dans Laisse-moi kiffer qui disait qu'elle avait eu raison de suivre ce conseil. Je ne me souviens plus de son nom, mais je lui envoie toute ma gratitude. J'ai mis du temps, je m'y suis mise il y a quelques mois et je viens de finir de rattraper tous les épisodes de Game of Roll et de Game of Roll Mademoiselle.
Oui.
Et là, j'écoute ton débrief avec fibre. J'adore vous écouter parler tout en buvant des litres de thé aux épices dans mon canapé. C'est le meilleur dimanche. Hâte d'avoir de nouveaux épisodes à mettre dans mes oreilles pour rendre le ménage, la vaisselle et le trajet en transport en commun vachement plus agréable. Eh bien, merci Mathilde Artiste. Et si ce commentaire est pertinent aujourd'hui, c'est parce que à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc le jour où il sort, hier est sorti le tout premier épisode de Game of Thrones Mademoiselle saison 2, l'épisode 1, partie 1, est dispo en podcast. Le replay en entier est dispo sur Twitch, puisque ça a été diffusé le 8 septembre. Et ce sera, pour rappel, un mercredi par mois. On n'a pas encore la date exacte du prochain, mais ce sera probablement début octobre. En live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, avec Aïda,
oui,
avec Mouet, avec Fibre Tigre, le maître du jeu, avec Clémence Boyer de Daron, qui est la seule personne de notre équipe qui sait jouer au jeu de rôle, donc on l'aime beaucoup et on est contente qu'elle soit avec nous. Et pour cette saison 2, comme il n'y a plus Alix Martineau, ou un, il n'y a plus son personnage Isabeau de Cresserelle, mais il y a Kao, alias Millie dans le jeu, qui est une streameuse qui avait déjà fait Game of Roll il y a deux saisons, et qui du coup rejoint la team Mademoiselle pour finir un peu l'arc de son personnage qui avait été tragiquement interrompu par le Covid. Du coup, Game of Thrones, Mademoiselle a repris. Je pense que Aïda, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est trop bien.
Le meilleur moment de ma vie et la vôtre, très probablement.
Dites-elle avec une énergie positive incroyable.
J'ai dit que j'étais en fenouil triste aujourd'hui, ok.
Ça marche, un avis de fenouil triste sur Game of Thrones. Merci encore pour vos commentaires. On fera à la fin de l'intro le topo ou laisser des trucs 5 étoiles, blabla, parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est pas l'heure du message boubou, du message
réré,
du message
bourré.
C'est parti. C'est Johan aujourd'hui.
L'alcool est dangereux pour la santé. Attention.
Salut, laisse-moi kiffer. Ouais, ouais, j'envoie un petit message bourré. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour toutes vos émissions. Là, je suis vraiment en soirée de rentrée et merci beaucoup pour toutes vos émissions, pour l'amour que vous nous portez. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous nous donnez de la joie à tous, c'est incroyable. Et genre, merci beaucoup à toute la team, merci aux gens qui sont venus qu'une seule fois, merci aux gens qui sont venus plusieurs fois, merci à la team d'origine, Mimi, Alix, Kalindi et Mad Fifi, Cédric Le Sang, on vous adore. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes géniaux. Merci pour tout l'amour que vous nous donnez. Et ouais, je suis un peu J'ai bu beaucoup de thé d'orge ce soir, mais merci beaucoup pour tout ça et pour toutes les crises de rire que vous me faites pendant que je suis en train de faire les courses. Ou...
Oui, franchement, il m'ouvre,
c'est un petit peu abrupt.
Mais... Franchement, ça touche. Et effectivement, il n'a pas fini. Parce qu'il dit pendant que je suis en train de faire les courses.
Ou... Point final.
Et c'est la fin du message. Je pense que Johan s'est endormi. Il en avait besoin. Merci Johan pour ce message boubou. Trop chaud.
Merci Johan. C'était beaucoup. Trop touchant. Grave. Franchement.
Pour rendre quand même à César ce qui est à César. La team originelle, ce n'est pas Kalindi, Cédric, Alix et moi. C'est Kalindi, Cédric, Louise et moi. Puisque Louise Petrouchka, à l'époque, avait lancé Laisse-moi kiffer sur Mademoiselle. Mais effectivement, Alix a tellement bien pris la relève que parfois on oublie qu'il y avait un avant. Mais il y avait un avant. Merci Johan, j'espère que tu as guéri ta gueule de bois. C'est la fin de l'intro de ce Laisse-moi kiffer numéro 159. Une intro, ma foi, d'environ une demi-heure. Une durée normale pour une introduction au podcast qui dure une heure en théorie. Nous avons une petite surprise pour vous. Mais avant ça, pour envoyer des commentaires, des vite-bolos ou des dédicaces écrites, ça se passe sur
Apple Podcast.
Avec
5 étoiles.
Et pour tout ce qui est audio, donc à savoir vos messages boubou, vos dédicaces audio et vos jingles, c'est mieux de les envoyer sur laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. On sait que surtout les messages boubou, vous allez sûrement finir par nous les envoyer en DM Instagram. Ça fonctionne aussi, c'est juste un peu plus chiant, donc essayez de privilégier le mail. Merci beaucoup. Et donc, surprise, nous n'avons pas de jingle aujourd'hui pour les kiffs. Nous avons encore mieux, nous avons en exclusivité mondiale pour vous le tout nouveau générique de Laisse-moi kiffer, créé par Matisse himself.
Oh my god! Bravo Mathis!
Merci. Non, bah attendez d'écouter. Ça se trouve, c'est nul à chier. J'ai tapé avec un râteau sur une.
Sur de l'expérimental sur le
tout coupé. À fait. Ouais, c'est co-signé avec John Cage, le générique. Il dure 13 minutes.
J'ai pas cette rêve. Arrêtez, voilà. Rêve cultivé, Kalindi et MDR. Moi, je suis là. Quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. C'est parti pour le générique.
Oula. Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits.
Non mais il y avait rien de drôle là.
J'ai le droit de pas vraiment travailler.
C'est vrai. Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille.
Oh. Ah mais c'est Secret Story sans les caméras.
Waouh.
Oh putain, LMK.
Parce que t'as l'air bourré alors que tu bois jeune.
L'alcool est dangereux pour la santé. Attention.
Faut pas qu'on raconte trop notre vie.
Sûr. Le but, c'est
ça reste intéressant.
Vous avez envie de kiffer, bah m'écoutez pas.
Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
Waouh, wow, bravo Valentin.
Bravo Valentin.
C'est super, hein.
C'est cool. Et il est possible, on verra, on va voir ce qu'on a le temps de faire, mais il est possible que ce générique, comme vous l'avez remarqué, qui est composé de moments forts de Laisse-moi kiffer, évolue au fil du temps et au fil des punchlines qu'on va rajouter dans les épisodes qu'on est en train de tourner. Et sache qu'Aline dit que quand Mathis m'a dit « t'as des punchlines de Laisse-moi kiffer », je lui ai immédiatement dit « déjà, il faut les trous parfaits, il faut qu'Aline dit qu'il râle sur les trous parfaits, le reste on verra ».
Et Alix m'a répondu la même chose.
Voilà, c'est inoubliable. Bravo Mathis.
Épisode 2, vraiment, c'était il y a 157 épisodes.
It's time.
À l'époque, on payait en francs.
It's time for, quand même, le plat de résistance de Laisse-moi kiffer, à savoir les kiffs. Mathis.
C'est vrai qu'on est là pour ça.
Et oui. Are you ready to party?
Mais I am ready to party.
Quel est ton kiff?
Mon kiff n'est pas une œuvre culturelle, ça n'est pas un animal chelou. Mon kiff n'est pas une bio Tinder.
Mon kiff est... pyramide.
Mon tout. Je sais pas ce que c'est que pyramide. Donc j'ai tenté
de prendre. En disant que c'était une rêve.
Dans la famille boulanger, je connais pas les jeux vraiment.
Je crois que c'est pas comme ça qu'on joue à pyramide.
Laissez-moi tranquille.
C'est avec les boules en plus pyramide.
Mais non,
c'est motus.
Pyramide, c'est un peu un tabou.
Mais comment on compte les points du coup? Je comprends rien.
Je sais pas.
Bon, mon kiff, toujours est-il que du coup, c'est un moment plus qu'autre chose qui me vaut les cris affolés de mon copain. C'est rester jusqu'à la fin des génériques au cinéma. J'adore faire ça et les gens me regardent parfois comme un taré et je comprends pas en fait pourquoi les gens au cinéma se barrent comme s'ils étaient garés en double file dès le premier carton. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont tous en mode « Vite, courons !» Alors que la lumière est même pas rallumée, donc ils passent tous leur temps à se péter la gueule, ils se marchent les uns sur les autres, et je suis en mode « Eh, si tu restais dans l'émotion du film jusqu'au bout, accessoirement, il y a un type qui s'est fait chier à faire le montage, à écrire tous les noms un par un, à relire je sais pas combien de fois pour pas faire des fautes au prénom de la stagiaire en coiffure au moment où le plan sur les figurants, en fait, il passe là-bas, et en fait, ce plan, il a été coupé au montage, mais elle est quand même créditée. T'as plein de gens là-dedans, et tu te dis « Ça fait partie du film, accessoirement, il y a une musique qui a été composée pour ce moment, et du coup, moi, je considère que ça fait vraiment partie du film. Et en fait, on est très très peu de gens à le faire. Et moi, je le faisais pas jusqu'à ce qu'une pote m'initie à cette pratique au secret bien gardé, qui m'a dit bah
pratique décadente.
Ouais, non. Enfin, en fait, elle m'avait vu commencer à me lever. Fait pourquoi tu te lèves? Et je dis parce que c'est fini. Elle fait bah non, c'est pas fini. Regarde. Je fais, bah enfin, il y a que les noms. Elle fait bah non. Regarde, il y a la musique et tout. Et puis elle dit tu restes dans l'émotion. Et en effet, récemment là, la semaine dernière, puisque visiblement je vis 3 mois après tout le monde, j'ai vu Benedetta au cinéma. Bonsoir. Et j'ai adoré. Et vraiment, à la fin, j'étais très très atteint émotionnellement par le film. Et je suis vraiment resté jusqu'à la fin du générique, mais rien que pour digérer tout ça et partir vraiment sereinement de la salle en fait. Et tout le monde s'était déjà barré. J'étais tout seul dans la salle, ce qui est un peu jubilatoire en vrai. Et c'est un truc auquel j'ai dû renoncer pas mal parce que donc l'année dernière j'étais à Londres et j'étais ouvreur dans un cinéma et j'étais obligé d'être le premier à me barrer pour le coup, de tenir la porte aux gens, et quel sacrifice, mon dieu, j'étais au bout de ma vie. Donc le fait de pouvoir de nouveau être spectateur dans les salles et pouvoir donc rester et vivre vraiment ce moment jusqu'au bout avec l'écran, je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça que toujours que je prends la place contre le mur au cinéma pour pouvoir ne pas avoir 30 000 Jean-Michel qui me passent devant, c'est les mêmes qui arrivent en retard en général en plus, donc voilà.
Du coup de gueule au passage.
Ouais, bonsoir.
Est-ce que t'es le genre de mec qui, quand tu binges une série, tu regardes le générique à chaque épisode?
Alors par contre, pas du tout chez moi. J'ai pas du tout ce truc. Ça, c'est vraiment un truc que je fais quand je vais au cinéma et quand je regarde un film ou une série sur Netflix, Amazon, ce que tu veux. J'y accorde moins de valeur, mais aussi parce que je pense que je vis le moment un peu moins intensément, tu vois.
Oui, t'es pas témoin dans l'immersion, vu que...
Ouais, c'est
sauf
ça.
Si tu as un cinéma chez toi, mais je pars du principe que probablement pas encore.
Non.
Un jour peut-être.
Un jour, voilà. Hein, c'est un projet. Et pourtant, je suis pas le détracteur des plateformes de streaming, etc. Je sais juste que je profite beaucoup plus d'un film quand je le vis comme ça jusqu'au bout, avec plus d'intensité dans un cinéma, et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, et en fait, je pense que beaucoup de gens se lèvent parce qu'ils se posent pas la question. Et je trouve que c'est pas mal sur des films qui te laissent sur une émotion un peu intense. Je pense à Jusqu'à la garde que j'avais vu une fois, où le début du générique d'ailleurs, je crois qu'il y avait pas de musique du tout. J'étais juste moi en larmes. Bon, faut savoir que je pleure tout le temps au cinéma, donc c'est pas tellement une référence. Hein. Je suis capable.
Parce que t'es un oignon.
Oui. Et j'étais vraiment dans mon émotion. Et je me souviens que les gens s'étaient mis à parler en 2 secondes, s'étaient levés et tout. Et je fais mais putain, on vient d'assister à une scène horrible. Enfin, ça finit vraiment en apothéose. Et j'ai pas envie d'être sorti du film comme ça en fait. C'est comme si pendant le film quelqu'un allumait la lumière. Enfin, c'est vraiment
c'est trop brutal.
Qui... Ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une convention inverse qui dit que vraiment il faut rester jusqu'à la fin, tu vois. Enfin, moi quand je vais au cinéma, je vois tout le monde qui reste jusqu'à la fin. Mmh. Et j'ai l'impression que si tu sors avant, tu te fais un peu juger par les autres,
que
tu vois.
Ça dépend dans des cinémas. Cinémas ouais. De gens snob.
Mais non, même pas. Alors, moi c'est compliqué. Exemple. Non, mais moi c'est différent parce que je vais quasiment au cinéma que sur mes horaires de travail, vu que je vais en projection.
Oui, d'accord.
Donc, si tu veux, là c'est encore autre chose.
Bah oui,
parce
c'est pas le même public.
Gens, déjà, c'est pas le même public, mais non, mais en fait, les gens se barrent très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut retourner à la rédaction après et potentiellement écrire sur ce que tu viens de voir. Donc là, c'est pas pareil quasiment. Enfin, il y a très peu de journalistes qui restent jusqu'au bout, ou alors c'est des gens qui enchaînent avec une autre projection. Mais sinon, tout le monde doit rentrer bosser, tu vois. Mais quand je vais au Pathé Vepleur, par exemple, qui est à côté de chez WAM, qui est un gros cinéma avec des gros films, machin, et c'est difficile de choper de la VO, bah, je peux t'assurer qu'en vrai, les gens restent. Alors, peut-être pas une majorité, mais il y a énormément de gens qui restent jusqu'à la fin. Et je me dis que c'est. Je me demande toujours si c'est parce que vraiment, ils ont envie de mater qui est justement la costumière qui a fait tel truc, machin, ou si c'est. Ou si c'est un peu une
regardez,
posture.
Regardez, je suis cinéphile.
Ouais. Oui.
Mais par contre, il y a un toujours. Gros truc de snobisme là-dessus, ça, c'est indéniable. Et je le vois bien parce que quand j'étais à Lyon, j'allais beaucoup dans les cinémas Lumière, qui n'étaient pas très très chers, mais qui étaient des cinémas quand même. Ouais, avec un public parfois
d'art
un peu.
DC, comme on dit.
Ouais, c'est ça, c'est les cinémas d'art et d'essai,
c'est
une institution. Et puis t'as beaucoup de gens qui aiment le cinéma, le vrai, le grand, tu vois. Si tant est que ça veut dire quelque chose. Et pour le coup, ouais, c'était un truc où c'était très très courant. Mais à Paris, j'ai l'impression que c'est moins le cas. À Londres, c'était beaucoup moins le cas. Mais de toute façon, les gens ont un rapport à l'art qui est totalement différent au Royaume-Uni, je trouve. Du coup, ouais, je suis content de continuer à le faire. Après, ça veut pas dire que je juge pour autant tous les gens qui le font. En fait, c'est juste plus de l'incompréhension qu'autre chose. Je comprends pas comment les gens arrivent à se désinvestir autant émotionnellement de ce qu'ils voient. Même s'il y a beaucoup de films où ça te passe un peu au-dessus, tu vois, mais
oui,
je
c'est
le
ça,
comprends
j'ai
pas
envie
trop.
De
en
dire, il y a des fois où tu rentres pas dans le film, donc t'as pas le truc émotif. Moi, j'avais eu ça avec Tree of Life de Terrence Malick, donc. Très contemplatif, très auteur. C'était l'occasion pour moi d'apprendre que je n'aime pas Terrence Malick si je n'aime pas ses films.
T'es pas la
et
seule.
C'était long. Et Tree of Life, il y a 4 moments au moins où tu crois que c'est la fin. Où vraiment, l'art qui se finit, t'as un fondu au noir,
je
t'as la musique qui s'étiole. J'étais là, cool. Et ça reprend. Et vraiment, la dernière reprise avec ma sœur avec qui j'étais au ciné, qui en plus d'habitude est plus, un peu plus cinéma d'auteur que moi, mais là, elle n'arrivait pas non plus. On a eu un fou rire nerveux parce que c'était toujours pas fini. Et en plus, et du coup, il y a des gens qui ont râlé. J'étais désolée parce que j'étais là. En fait, vous êtes cité dans le kiff du film, ça doit être trop bien, tu vois. Je comprends le concept, mais juste ça marche pas sur moi. Et du coup, le générique, je me suis barrée. Ouais, dès que ça a été fini, j'étais là, putain, enfin.
Ouais.
Je me suis déjà forcée à tenir jusqu'à la fin, tu vois.
Par contre, quand je passe un mauvais moment, je suis le premier à me barrer et je vis ça comme un vrai moment d'insulte au film en mode ah ouais, tu m'as fait chier avec un film de 2 heures qui m'a saoulé. Et ben, je me barre dès
le
premier carton.
Regarde même pas le nom de stagiaire coiffure des figurants qui ont été coupés au montage.
Exactement. C'était ma vengeance contre Annette, typiquement. Voilà, je l'ai dit, j'ai pas aimé Annette. Ça voilà, dénonce. Je l'ai dit, je m'en vais.
Si t'as aimé Benedetta, ça m'étonne pas.
tellement lourde de sens, tant que phrase.
Je sais pas du tout ce que ça implique, ça a l'air super violent.
J'ai détesté ce film et j'adore Verhoeven, mais c'est un autre débat.
Je déteste Verhoeven et j'ai adoré ce film. On se disputera dehors, si tu veux.
Moi, j'ai fait un peu tout le chemin, c'est-à-dire que j'ai été la meuf qui se barre dès que le film est fini. Mmh. Ensuite, j'ai fait cinéma au lycée et ma prof de cinéma, le premier truc qu'elle nous a dit, c'est faut rester jusqu'à la fin du générique par respect pour les équipes du film, parce que je pense que le premier truc qu'on a appris, c'était toutes les équipes qui font un film. Et du coup, j'étais grave dans ce truc de il faut rester jusqu'à la fin, c'est important. Et après, en grandissant, j'étais là, en vrai, j'étais... quand même, la plupart du temps, je m'en fous. Enfin, je regarde le pré-générique, c'est celui qui est un peu mis en scène,
oui,
un peu joli.
C'est
souvent.
Les cartons, c'est ça.
Et voilà, les cartons. Et après, en vrai, quand c'est le générique fond noir, je suis là, bon. Sauf si le film m'a bouleversé. Genre, oui, j'ai vu Dunkerque au cinéma, ça m'avait beaucoup. J'étais à fond dedans et du coup, j'ai pris le temps. Mais en vrai, c'est rare les films où je dois prendre le temps de sortir du film. J'ai quand même souvent envie de fumer une clope et de faire pipi. Et après, bah, t'as quand même les Marvel qui ont habitué tout le monde pour un certain style de film à rester jusqu'à la fin, même quand il n'y a rien. Ce qui est marrant parce que du coup, les gens. Enfin, on est un peu paumés.
Et ce serait
vois,
pas le genre de
les Marvel,
film
où
on attendrait
on
que les gens
toujours.
Attendent, c'est ça qui est drôle.
Maintenant, dans les Disney Pixar, il y a souvent des scènes post-génériques. Encore, encore plus qu'avant. Maintenant, t'as une scène mid-générique, donc après les cartons, une scène post-générique. Donc, c'est quand même. Puis quand on est sur un film qui dure déjà 2h17, ça fait ok, on va rajouter 15 minutes de générique parce que les Marvel ils sont pas faits par 12 personnes donc c'est un peu long mais la pratique tu vois change et en même temps il y a des fois où les Marvel je reste quand je peux jusqu'au bout mais des fois je suis là vas-y je la regarderai sur YouTube tu vois la scène post générique
ah ouais
bah parce mais... que des fois je suis là en fait j'ai pas envie de me taper 10 minutes d'écran noir
je comprends
vu que j'ai pas une implication émotionnelle de ouf dans les Marvel pour le coup j'ai
mais
pas
en vrai rien que regarder des fois je trouve avoir la curiosité de regarder les posts impliqués il y a vraiment toujours des trucs improbables où tu dis attendez à quel moment il y avait je sais pas moi une grue et t'as un mec où son job c'était de peindre la grue et il y avait pas de grue dans le film t'as plein de trucs comme ça où tu regardes vraiment la petite ligne du générique et ça fait déjà 2-3 minutes que les noms défilent et t'arrives dans des posts un peu bressons quoi et t'as aussi un truc qui me fascine avec les vieux films quand tu regardes ça dans des rétrospectives ou que ça passe sur d'autres plateformes, c'est les génériques qui étaient au début, avant, et vraiment c'est interminable avant que ça commence, mais en fait tout le monde devait rester, enfin je sais pas si les gens arrivaient en retard pour louper le générique du début comme on essaie de louper les pubs, mais ça ou alors les réals qui de manière vraiment ostensible foutent ça au milieu en mode ah bah je t'emmerde, je crois que c'est Gaspard Noé qui avait fait ça sur plusieurs films, en mode ah ouais vous êtes pas un
je
vrai cinéphile,
comme
bah,
tout
je vous
le
l'impose
là, hein.
Oui.
Mais voilà. Après C'est marrant parce que là, toi, tu parles de ce geste-là comme un truc en lien avec le cinéma, genre le film que tu viens de voir et tout. Moi, hors cas où effectivement je suis en larmes à la fin du film et du coup j'ai envie de rester 5 minutes pour finir de m'éponger le visage et sortir dignement, tu vois.
Ma vie.
En dehors de ces moments-là, en fait, juste moi, j'aime pas être au cinéma, genre j'aime pas cet endroit, mes genoux ils touchent tout le temps le siège devant moi parce que je suis grande. J'aime pas entendre les gens manger, j'aime pas entendre les gens parler. Enfin, je kiffe regarder des films au ciné.
Ouais.
Mais par contre, être dans cet endroit-là de manière, encore une fois, très pragmatique, ça me saoule. Et du coup, dès que le film est fini, même si émotionnellement je suis encore investie dans le truc, j'ai qu'une envie, c'est de sortir pour pas gérer mon émotion entourée de 300 personnes que je connais pas. Mmh. Et de pouvoir marcher, fumer une clope si j'ai envie, et justement repenser un peu à ce que je viens de voir. Alors, pour autant, j'aime bien regarder les génériques, tu vois. J'avoue, moi aussi, j'aime bien regarder les dernières lignes avec les métiers que je connais pas et les trucs un peu fun et tout. Mais ça me fait trop chier d'être dans une salle de ciné. Okay. Pour moi, c'est hyper désagréable, tu vois. Et je me dis, je dois pas être la seule, en vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui se cassent aussi parce que juste, je vous connais pas, les frères. Ça fait 300 personnes qu'on... Enfin, ça fait 3 heures qu'on respire le même oxygène. Laissez-moi partir.
Un petit fenouil farouche.
Moi, c'est ça que je trouve beau, en général. Enfin, c'est le fait de se retrouver à côté de quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et d'être tous les deux. Ça se trouve, on a des votes totalement opposés. Ça se trouve, ta vie, c'est absolument pas la mienne. Mais en fait, on est en train de pleurer devant le même film, devant la... On a exactement la même émotion à tel instant T, et je trouve ça vachement beau. Donc voilà.
Deux façons différentes de vivre.
C'est
le
beau.
Fait d'avoir des émotions avec des gens dans la même pièce.
C'est de la poésie à deux balles.
Soit très beau, soit cassez-vous, je vous connais pas.
Ouais, laissez-moi aller gérer mon émotion dans un coin.
Non, mais je peux comprendre que t'aies une forme de pudeur ou quoi, si t'es pas à l'aise dans le fait que dans un même lieu, t'as genre 200 personnes en train de regarder le film, je peux comprendre. Que
pour moi, c'est comme pleurer dans le métro, quoi. Je suis en mode non, mais je vais pas faire ça. Sauf si je peux pas m'en empêcher.
Dans le métro et la lumière, quoi.
Ouais,
ouais, et puis les gens se regardent dans le métro, accessoirement. Les gens au cinéma, ils se regardent pas. Et d'ailleurs, c'est.
En soi, moi, je regarde mal. Moi, je regarde mal au cinéma.
Non, mais bien sûr.
Moi, je regarde de ouf mal.
La team Karen, quand quelqu'un fait un peu de bruit.
Ouais, bah oui, bah évidemment. Allô, je suis fan de films d'horreur, donc je me tape tous les gens qui font du bruit dans les cinémas.
Ouais, c'est vrai que les films d'horreur, c'est le pire pour ça.
Ah, bah oui, c'est horrible. Non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, moi. J'y vais le matin.
J'y vais le matin et pour le travail, c'est tout.
Mais c'est moins cher le matin, ceci dit, non ?
Ah bon ?
Bah, il y a pas mal de cinémas qui font des tarifs moins chers le matin,
ah
ce qui
ouais,
remplissent pas leurs séances. Ouais, ouais, bien sûr.
MK2 Bibliothèque fait ça très bien.
Ah, je vais pouvoir. Ouais. Oh là là, Seigneur, c'est je préfère payer 14,50€ et aller à côté de chez moi.
Merci pour ce kiff, Mathis.
Mais pas de soucis.
Plein de débats sur rester ou pas jusqu'à la fin du générique. Aïda, what is your kiff ?
My kiff.
Oh, un kiff. Je me rappelais de ton kiff.
Un kiff complexe. Mon kiff de cette semaine, c'est. La série Gilmore Girls qui est sur Netflix.
Actuelle
que je hate-watch en ce moment. Ouais, mon kiff, c'est hate-watcher cette série.
C'est ça ton kiff, c'est pas Gilmore Girls. C'est détester Gilmore Girls et regarder quand même.
Mais non, mais en fait, c'est un peu les deux. Ça fait 1000 ans que j'entends parler de cette série parce que je sais pas, ça fait 1000 ans qu'elle existe, ouais. Principalement. Apparemment, c'est un espèce de classique des séries des années 2000 que tout le monde a regardé, machin. Et moi, on m'a dit que ça avait pas trop mal vieilli et tout, que c'était bien, blablabla. Un jour, je me suis dit, incroyable, je vais regarder Gilmore Girls, on va voir. C'était un moment où j'allais très bien dans ma vie. J'ai regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça horrible. J'étais en mode, qu'est-ce qu'on se fait chier ? Il se passe rien, tout le monde se ressemble, c'est impossible de dissocier les gens dans cette série. Enfin bref, c'était horrible, j'ai fermé mon écran Netflix, j'ai ragé et après je suis allée faire autre chose de ma vie, c'était vachement bien. Et ensuite, j'ai revu un tweet qui en parlait il y a pas longtemps et qui disait que c'était un peu une série doudou en mode truc qui te réconforte quand t'es pas très bien dans ta vie. Et il s'avère que ça a été mon cas ces derniers temps, pas de manière tragique, genre je vais pas mal ou quoi que ce soit. Juste, je sais pas, j'étais fatiguée, j'étais un peu molle, un peu déprimée et tout. Je me suis dit, ah tiens, je vais regarder cette chose. J'ai revu exactement le même épisode, je l'ai trouvé incroyable.
Mais qui es-tu ?
Mais parce qu'en fait, comme il se passe rien, c'est hyper rassurant. Donc quand t'es au top de ta vie, tu t'en fous, tu vois, de voir Martine et Micheline qui font du pain. Ou
ah oui,
je sais pas trop
ce que tu peux expliquer le pitch de Gilmore Girls.
Ah oui, pardon.
Je vais pas le tenter parce que vraiment, j'ai vu 4 épisodes il y a 100 ans et c'est tout.
Donc Gilmore Girls, c'est une série qui est maintenant sur Netflix, qui a commencé dans les années 2000. Donc il y a environ 1 million d'épisodes parce que je crois qu'il y a 10 saisons qui font 25 épisodes de 45 minutes chacun. Et c'est l'histoire d'une mère célibataire et sa fille. Donc là, elles ont toutes les deux le même nom. Elles s'appellent toutes les deux Lorelai Gilmore, ce qui est déjà un exploit de s'appeler Lorelai et de faire une série là-dessus.
Attends.
Pourquoi tant de haine ?
La gamine, elle s'appelle pas Rory ?
Mais en fait, c'est son surnom parce qu'elle a le même nom que sa mère. Et du coup, si on les appelle toutes les deux... Oh. Tu vois, c'est déjà boring.
J'avais pas compris ça. C'est vrai que c'est déjà boring. Très concentré.
Mais non.
Tu trouves pas ça beau ?
Pardon. Là, ton fils Mathis, non, t'as aimé Gilmore Girls ?
Non, en fait,
deux questions pièges.
Non, mais je l'ai pas vu. C'est juste que la réalisatrice, c'est celle qui a fait The Marvelous Mrs. Maisel. Et du coup, forcément, je suis un tout petit peu biaisé.
Non, mais c'est vrai,
j'ai
des fois des gens font
adorer cette série.
Bien aimé,
et
souvent,
en train de
d'ailleurs,
c'est
comme ça qu'on fait dans l'apprendre.
Oui.
Non, mais bien sûr. Mais du coup, dans le doute, je me dis, ça doit pas être totalement con, quoi, ou totalement chiant.
Non, mais
pas du tout.
C'est juste que c'est chiant.
En fait, il se passe rien. Donc
le tranche pitch. De vie, comme on dit.
Voilà, c'est un truc un peu tranche de vie où la mère a eu sa fille très jeune, elle l'a eu à 16 ans.
C'est pour ça qu'elles ont le même âge.
Et donc,
voilà. Vraiment impossible de distinguer l'une de l'autre. Hein.
Elles ont 16 ans d'écart. Donc, en gros, au début, la petite a 16 ans et la mère a la trentaine. Et en fait, plus t'avances dans les saisons et plus l'enfant grandit.
C'est comme si là, j'avais un enfant de 15 ans.
Bah ouais. Mais c'est moi-même l'enfant de 15 ans. Enfin, tu vois, ça marche pas du tout.
Il faut que je te dise quelque chose.
T'es trop vieux et t'es trop grand et blond aux yeux bleus pour être mon fils, Mathis. Nonobstant le fait que je n'ai aussi jamais accouché, mais c'est un détail.
Bref, donc voilà, c'est l'histoire de leur vie. En fait, elles sont dans un petit bled qui s'appelle Stars Hollow, où elles vont au café parler avec le mec du café. Elles ont éventuellement des histoires de mecs. Elles vont à...
Il y a des bails de famille, genre la mère, ses parents, ils l'ont un peu... Enfin, elle est en brouille avec ses parents, ouais. Friqués parce qu'elle est tombée enceinte jeune, je crois.
C'est ça. En gros, c'est un peu trois générations. Donc, t'as les grands-parents qui sont friqués dans un gros manoir et tout. T'as la mère qui s'est barrée très jeune. Parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait pas envie d'être de droite comme ses parents, donc elle est allée vivre dans une cabane. C'est littéralement ce qui s'est passé dans la série. Et après, t'as la petite qui est en mode « Oh, je suis la petite fille et je réconcilie deux générations, ma mère et mes grands-parents et tout. »
La droite et la gauche.
Voilà, le consensus le plus boring de l'univers. Elles vont au café, elles vont au marché. Enfin, je sais pas, il se passe rien, tu vois.
Oui, elles vont jamais à Miami, par exemple. Elles vont au marché, quoi. Après, il me semble que le succès doudou de Gilmore Girls vient aussi de ce côté petite ville, très automne, très couleur, un peu passé. Enfin, il y a un filtre un peu très 2000 sur l'image de Gilmore Girls, en plus du fait que c'est en 4 tiers, je crois. Donc en carré, il me semble. Et y a, moi, je l'ai beaucoup vu citer comme c'est la série de l'automne, tu vois.
Non, c'est mais grave, c'est...
De l'automne.
L'esthétique pumpkin spice latte sur Instagram et Twitter, c'est Gilmore Girls fois un million. Et voilà, donc il se passe peu de choses, elles ont des potes, elles font des repas avec leurs potes, voilà, il y a des petites histoires de couple et tout. Après, ce qui est cool avec cette série et qui m'empêche de complètement hate-watcher, parce qu'il se passe pas grand-chose et du coup c'est rassurant, mais en même temps t'es là, putain, je viens de faire ça pendant 4 heures, il s'est rien passé. Des fois je m'endors et je rate 2 épisodes et quand je me réveille je comprends encore ce qui se passe, alors que j'ai fait 2 heures de sieste, il y a eu 2 heures d'épisodes pendant ce temps-là, et on s'en fout parce qu'en fait ça marche, mais... C'est la série des années 2000, je pense, que j'ai vue de ma vie, qui a le mieux vieilli. Genre, tu regardes n'importe quelle série des années 2000, c'est grossophobe, transphobe, homophobe, raciste. Ouais. Insupportable à regarder. Général, ouais. T'essayes de regarder 2 épisodes de How I Met Your Mother, tu
c'est dur, hein.
Casses tout
et
ce
les
que
rires
tu trouves.
Aussi. Les rires enregistrés ou les rires plateaux. J'avais effacé de ma mémoire le fait qu'il y avait des rires dans How I Met. Et quand j'ai, un moment, un soir, je suis rentrée un peu bourrée, je me suis dit... Tiens, on se mettrait pas un petit How I Met ? Et je fais, waouh, ok, je fais 3 minutes, j'ai arrêté. C'est vraiment, oulala.
Ah, c'est cringe. Enfin, moi, en tout cas, quand je re-regarde des séries comme ça, je me dis, mais c'est ouf que j'ai grandi avec ça. Et en fait, c'est cringe de ouf, quoi. Et ça, pas du tout. En fait, c'est chill. Puis ça raconte des histoires de meufs. Donc, t'as des générations de meufs différentes qui s'entraident. Un petit côté sororité. C'est très rassurant. Elles mangent de la citrouille. Enfin, bref. Je sais pas comment
j'adore
décrire ce
écrire
qui se
un million d'épisodes avec juste
mais
ça.
Oui.
C'est des meufs, elles mangent de la citrouille, elles ont des bails de
elles
meufs.
Vont marcher.
Voilà.
Ouais, elles boivent du café, des fois elles s'engueulent, machin. Mais tu vois, là j'ai regardé la première saison et je sais même pas la raconter, tellement je sais pas ce qui s'est passé. J'ai envie de dire à un moment elles s'embrouillent, mais pourquoi ? Parce qu'en fait elles s'embrouillent jamais, la mère et la fille elles sont meilleures copines. Très rassurant aussi, tu vois, d'avoir une petite relation parent-enfant où elles se racontent tout, c'est chou et tout. Mais je sais pas, enfin, vraiment, l'autre elle fait tout le temps ses devoirs pour avoir des bonnes notes et tout. Enfin, tu sais, il n'y a pas d'enjeu,
ça a l'air
tu
horrible.
Vois. Il n'y a pas de crise d'adolescence. Tout le monde est parfait. Enfin, vraiment, c'est très flippant de passer autant de temps à regarder ça. Mais de fait, sachant que je suis très fatiguée et un peu tristoune en ce moment, ça marche vachement bien de me remonter le moral avec. Et je sais que quand je reirai mieux, ce qui sera probablement demain quand j'aurai fait une bonne nuit de sommeil, je continuerai à regarder pour bitcher. Et pour live tweeter le fait que tout le monde se ressemble dans cette série et qu'elles font rien à part boire du café avec le même mec. Et ce sera aussi, ma foi, très agréable.
Tout à fait. J'ai hâte que tu découvres les bails parce que je sais qu'il y a des camps dans les fans de Gilmore Girls.
Ah,
est-ce
ouais
qu'on est team tel mec de Rory ou est-ce qu'on est team plutôt tel mec de Rory? Parce qu'évidemment, elle va aller d'un mec à l'autre et elle saura pas si c'est le bad boy ou le good boy qu'il faut prendre, tu vois. Donc, t'es parti pour des
mais
rebondissements.
Mais il n'y a pas de bad boy dans cette série, il n'y a rien, il n'y a aucune aspérité.
Il y en a à peu près 28.
Mais dans la saison 17.
Ça fait déjà 500 heures la saison 1, Kalindi. Non, c'est pas vrai, mais genre, c'est 20 épisodes d'une heure, quoi.
Oui, en plus, c'est vrai que dans les années 2000, on s'en battait les couilles. On faisait des longues saisons.
Mais il faut que t'en parles à Alix Martino.
C'est vrai.
Alix Martino, première fan de Gilmore Girls.
Elle
sur le tard, hein. Mais ça fait vraiment genre un an qu'elle s'est replongée dedans et elle me dit mais faut que tu regardes, j'ai essayé deux épisodes, j'étais là.
Ah non, mais ça va jamais être ta
c'est
cam.
C'est d'un ennui.
C'est comme si on disait regarde les frères Scott en 2021.
Mais genre... j'aimais déjà pas à l'époque, j'aimais pas How I Met, j'aimais pas Friends. Donc, vraiment.
Mais regarde ça quand tu vas mal, parce que tu vois, moi j'ai fait comme toi, j'ai mais essayé non, quand moi, j'étais de bonne humeur, je me suis fait chier.
Mais quand je vais mal, c'est vraiment 6 mois par an, tu vois, et vraiment...
Bah, t'as le temps de tout binger.
Mais moi souvent, j'ai 2 heures, je vais super mal, et après 2 heures où je vais super bien, enfin c'est pas...
Putain, la chance, genre tu prends un apéricube, c'est fini, quoi, genre non, finalement.
Alors vraiment pas un apéricube, vraiment pas.
Vous avez pas vu qu'Aline dit lever les yeux au ciel.
Il est zinzin, lui.
Mais un petit crottin de chèvre frais, sur du pain de campagne...
Ah oui, non,
mais pas devant les gens. Gentrifié, tu sais, donc.
Elle a inventé la gentrification, attends.
La première fois que je me suis évanouie, c'était devant un biocop d'ailleurs.
Ok, c'est le titre de l'épisode. Mais bordel. Encore une fois, biocop, n'hésitez pas à nous sponsoriser. On a plein de choses c'est à dire sur vous.
Est-ce que c'était un évanouissement de joie de.
Non, c'est. C'était parce qu'à l'époque, je sortais avec un connard qui me prenait beaucoup d'énergie vitale. Ça, et puis en fait, je m'étais un peu engueulée avec mon prof de géopolitique.
un mardi.
Et du coup, en fait, j'étais avec mon amie Élise, on rentrait chez moi, puis je me suis évanouie devant un biocop. Ils ont été sympas parce qu'ils ont donné un petit gâteau pour me faire manger.
Oh.
Et après, j'ai fini à l'hôpital, ce qui était ma grande passion parce qu'ils me donnaient du Xanax.
Ne faites pas ça chez vous, les LMK. C'est
pas obligé d'aller à l'hôpital pour avoir du Xanax, il y a d'autres moyens.
Ouais, mais à l'époque, je savais
attention,
pas.
Attention, les LMK, n'écoutez pas, Aïda. Allez voir un médecin pour avoir du Xanax.
Oui, d'aller chez un médecin, pas.
Jamais faire confiance à un fenouil qui a des yeux de chien.
Je sous-entendrai pas des trucs de dealer. Pourquoi, pourquoi tu t'endors devant Gilmore Girls si tu prends du Xanax devant.
Non, je suis pas très Xanax.
Merci Aïda. Pour ceux qui font semi-hate watch, en vrai, j'ai l'impression que tu passes pas non plus un mauvais moment depuis Gilmore Girls.
Mais pas du tout. Je passe pas des mauvais moments. Je passe des moments étranges qui me font découvrir beaucoup de choses sur mes limites et moi-même. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'une série, finalement ?
C'est, je pense, l'intention ultime de Gilmore Girls, c'est de pousser les gens dans leurs limites, bien sûr, vu l'audace du programme. Merci Aïda pour ce kiff.
Merci de m'avoir écouté.
Oui.
What is your comeback kiff ?
Alors... J'ai beaucoup réfléchi, parce que je me suis dit, autant je parle de mon congé sabbatique, mais autant le faire en live.
Et oui,
voilà.
Rendez-vous donc le 23 septembre en live sur twitch.tv/mademoiselle.
Tout à fait.
Pour probablement un live de 8 heures si tu racontes ton congé sabbatique, ça va être trop bien.
Donc je vous raconterai ça à ce moment-là, mais pendant mon congé sabbatique, j'ai pris aussi un petit peu de vacances, un mois de vacances même, et je suis allée en Grèce, et en Grèce, en Grèce, j'avais embarqué dans mes valises un bouquin qui m'avait été conseillé par ma mère. Et alors ma mère, quand elle me conseille des bouquins, c'est souvent à boire et à manger. Donc le premier bouquin qu'elle m'avait filé cet été était à chier du cul, vraiment. Donc l'enfer, je m'étais fait chier comme pas possible. Et donc j'entame ce deuxième livre qui s'appelle Arcadie. En me disant, oh là là, la couverture est nulle à chier. Puis là, ça m'a refait être dans le seum de putain, vraiment, les éditeurs, c'est infernal. Bougez-vous le cul pour faire des couvertures un peu correctes. Je veux dire, aussi, oui, on y arrive très bien. Pourquoi est-ce qu'en France, on est vraiment des cons là-dessus? Donc, j'étais très colère. Et j'avais pas envie d'ouvrir le bouquin. Et puis, je me faisais chier, donc je l'ai ouvert. Et là, claque de ma life intersidérale. Donc, j'ai lu ce livre qui s'appelle Arcadie, d'une femme qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam. Qui est une Française qui vit à Marseille, qui a 55 ans, qui est prof de littérature et qui a écrit une quinzaine de romans aujourd'hui, dont j'ai lu les 9 principaux.
Ah, oh. Ah oui, d'accord, oui, un gros
en fait,
coup de cœur.
Ah non, mais gros coup de cœur. En fait, j'ai lu ce livre et donc j'étais sur la plage à côté de mon mec. Mon mec lisait un gros polar et il m'entendait rire aux éclats toutes les 5 minutes. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est que tu lis ? J'étais là, je lis un truc qui est tellement barjot.
Laurent Baffy.
Et que... Et non, mais ça aurait pu. Et donc, je lui dis, écoute, tu peux pas comprendre, c'est d'une drôlerie infinie, mais je te passe le bouquin dès que j'ai fini et tout. Après, je lui ai passé, et en fait, les 30 premières pages, je le voyais lire, et j'étais là, mais tu ris pas là, parce que c'est bizarre, parce que t'as passé les 30 premières pages, tu devrais rigoler quand même. Bon, bref, il a pari, donc je sais pas si tout le monde serait très sensible à l'humour tout à fait décalé et zinzin d'Emmanuelle Bayamaktam. Alors, Arcadie, qui m'a intégrée dans son univers, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une ado de 14 ans, qui vit dans une espèce de retraite dans le sud de la France, à côté de Marseille, avec ses parents et toute une troupe de joyeux zinzins.
Donc ses parents sont électrosensibles, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la moindre onde, machin. Sa mère, une espèce de femme sublime qui aurait pu être mannequin, mais elle a vraiment peur de tout, donc elle vit que chez elle, elle déteste tout le monde, elle a très peur de tout, machin. Son père, un abruti congénital au dernier degré. Et en fait, cette retraite est pour les gens qui se sentent en marge de la société, mais qui n'ont pas forcément de vrais problèmes. C'est souvent parce que juste ils ont un peu la flemme de s'intégrer aux autres, ils se trouvent moches, ils ont été un peu moqués pour leur physique, voilà. Et en fait, ils vivent tous sous la houlette d'un gars qui s'appelle Arkady, qui est une espèce de gourou petit, bedonnant, qui a pas tous les apparats classiques de ce qu'on peut appeler un bel homme, et qui pourtant va séduire cette adolescente de 14 ans qui veut absolument le ken, mais lui il peut pas, puisque, enfin voilà, elle a 14 ans, lui c'est un adulte.
Bon, ah, c'est bref. Pas ce genre de gourou du coup, parce non. Que généralement les gourous de secte, quand il y a une meuf de 14 ans qui veut coucher avec eux, ils sont là, c'était exactement le plan, let's go.
Oui, c'est pour ça qu'ils deviennent gourous en général.
C'était l'intention en fait.
Je ne vous raconte pas trop ce qui se passe après dans Arcadia, car vraiment c'est énormément de surprises. Et donc en fait, cette jeune fille de 14 ans a un physique plutôt hors du commun parce qu'elle est bossue, prognate, et elle se trouve très laide, et elle va tout le temps voir les gens en disant « Est-ce que tu me trouves belle ?» Et les gens sont là « Bah non, t'es laide, tu vois. »
Alors la communauté des électrosensibles rejetée par la société, ils sont
Non, ça c'était avant qu'elle arrive dans la communauté des électrosensibles. Là, en fait, elle passe un peu inaperçue parce que tout le monde est plus zinzin et plus étrange physiquement les uns que les autres. Et en fait, cette jeune femme qui ne désire qu'une chose, c'est d'être amoureuse, de tomber follement amoureuse, de vivre le sexe, en fait, se rend compte qu'elle a non pas un vagin, mais une cupule de seulement 3 cm qui ne peut pas admettre quelque chose de plus qu'un demi-doigt. Et donc, ça va la faire se questionner sur quel est vraiment son genre, sur c'est quoi son corps, c'est quoi sa place dans la société, etc. C'est écrit avec un humour qui est extraordinaire parce que vraiment, tous les... En fait, cette femme a un talent, et je le découvrirai plus tard quand je lirai d'autres de ses bouquins, un talent extraordinaire pour écrire les personnages. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant ri devant des descriptions de personnages. Et donc là, cette secte de joyeux zinzins va être un peu bousculée le jour où il y a un migrant qui va essayer d'intégrer le campus. Et là, en fait, cette secte qui est censée être ultra pour tout le monde, qui accueillir tous les marginaux, à ses propres limites, et elle s'appelle L'étranger, et en fait c'est vraiment c'est très drôle, et c'est sa force à cette autrice, c'est qu'elle commence par te faire un truc qui a l'air complètement jeté par la fenêtre, devant lequel tu te pisses de rire toutes les deux secondes, et ça tire vraiment dans le drame, dans le truc extrêmement noir, politique, social, enfin c'est brillantissime. J'ai lu ça, j'étais là, attendez, qu'est-ce que je viens de lire, je peux pas retourner à Mélissa d'Acosta, même si je l'aime profondément, on est quand même pas sur le même niveau de profondeur. Donc je me suis dit, vite, téléchargeons Kobo. Donc moi, télécharger un truc déjà, faut vraiment que je sois sur un love.
On n'est pas sur une technophile avertie du côté de Kalindi.
Oui, c'est quand t'as dit télécharger que j'ai su que j'allais lire le livre.
Je pense pas qu'on va finir par te transférer chez Numérama ou Frandroid, par exemple. Je suis pas sûre qu'une évolution de carrière horizontale te tente énormément.
Bah franchement, je sais pas, j'ai téléchargé ça, j'ai téléchargé une appli juste pour manger au restaurant sur mon île en Grèce et tout. Là, je crois que je
suis... Ah bah t'es ready. C'est bon, journaliste, tac.
Je suis ready. Et voilà, et donc après, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », qui est pareil.
Je lis toujours des livres qui ont des beaux titres quand même. Hein.
C'est vrai. Et là, c'est l'histoire d'une adolescente dont la mère a un bec de lièvre et à qui on a toujours dit qu'elle était vilaine et qui, elle, trouve que c'est la plus belle femme de l'univers. Et donc, en fait, elle est ultra bien dans sa peau, elle se rase le crâne, elle veut absolument devenir danseuse burlesque, voilà. Et donc, c'est l'histoire de cette jeune femme, de cette ado, qui vit avec ses parents, qu'elle peut pas blairer, parce qu'en fait, globalement, vous en rendrez compte quand vous aurez lu ces 15 romans, c'est toujours la même histoire. C'est une gamine ou un gamin de 14-15 ans qui peut pas blairer ses parents, qui le trouve complètement con du cul, qui elle est vachement plus brillante que tous les adultes qui l'entourent et qui se pose des questions sur son physique, son genre, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
En lire 9 à la suite, ça t'a pas paru un peu redondant parce que moi je suis habituée aux auteurs qui ont des tropes. Je veux dire, je lis Stephen King, c'est vraiment...
Oui.
9 livres sur 10 de Stephen King, tu peux prendre les mêmes éléments et tu les secoues dans un chapeau et...
un auteur en panne d'inspiration dans une petite ville avec aujourd'hui un vampire, incroyable. La dernière fois, c'était pas un vampire.
Et ça fait partie de son œuvre et j'aime ça, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile à binger. Et un jour, je m'étais dit, je vais me cultiver sur je vais essayer d'enrichir ma culture polar. Je vais donc lire un des grands du genre qui est Harlan Coben. Et en fait, j'ai fait l'erreur de choper genre 10 Harlan Coben, le top 10 d'Harlan Coben. Et en fait, juste quand tu les lis les 10 à la suite, ça se voit, les boîtes, c'est les mêmes boîtes avec d'autres trucs dedans. Ouais. Et autant si j'en avais lu un de temps en temps, genre il doit en sortir un par an, tu vois, comme tout le monde, bah, un de temps en temps, ok. Mais en fait, ça m'a gâché Harlan Coben de l'avoir lu à la suite. Et maintenant, j'ai pas envie de lire Harlan Coben parce que je suis là, bah, c'est tout le temps pareil. Alors que je lis Stephen King.
Oui, donc, mais là, si tu veux, c'est pas des intrigues à mystère, c'est pas des trucs à tiroir où, enfin, du coup, quand t'as deviné un peu et que t'as capté comment l'auteur t'avait à la fin. T'as un peu capté comment il allait faire toute sa vie, mais même Joël Dicker, tu vois, t'as lu un livre de lui, tu les as tous lus, enfin, c'est infernal. Là, c'est pas pareil, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle traite toujours des mêmes sujets, mais avec des personnages qui sont un peu plus farfelus ou un peu moins, voilà. C'est globalement la même chose, mais ce que j'aime chez elle, c'est son art de la langue, c'est-à-dire qu'au-delà du discours, au-delà de ce qu'elle raconte, il y a toujours son champ lexical que je trouve extraordinaire. Alors voilà, ça aussi, c'est un truc qui m'a énormément plu pendant que je lisais ses bouquins. C'est que vraiment, un mot sur, je sais pas, 100, je le connaissais pas, ce qui est énorme. Donc je passais mon temps...
Déjà quand même beaucoup de vocabulaire, t'es la seule personne qui prononce prognate dans Laisse-moi kiffer par exemple, tu vois. Ça n'arrive pas sinon.
Maintenant vous êtes deux, techniquement.
Oui,
parfait.
Il est fort. Et en fait, du coup, j'étais là. Au début, c'était un peu âpre, parce que j'étais là. En vrai, fait chier, je comprends rien, voilà.
Madame, parle français, bon. Hein.
Ça m'a saoulée, tu vois, donc j'étais là, vas-y, je l'ai un peu rejeté au début, bêtement. Et puis comme j'avais beaucoup couru le matin, je remarque que quand je cours le matin, ça m'oxygène quand même pas mal le ciboulot. Et donc j'étais là, vas-y, sois pas une vieille conne, essaye, tu vois. Donc j'ai cherché les mots dans le dictionnaire et j'ai enrichi mon vocabulaire personnel grâce à Emmanuel Bayamaktam, mais d'au moins, mais je sais pas, 1000 mots. Du coup, j'ai fait
trop
un
bon
truc
argument,
que font les gens que je déteste. J'avais un carnet où je notais mes petits mots de vocabulaire et tous les matins, j'étais là, Et tous les soirs, j'étais là, mais qu'est-ce que je deviens? J'ai du développement personnel, je prends des notes.
Ça, c'est depuis que t'as fini
Julia Cameron.
Sa créativité,
je
là.
Sais, je me dégoûte et à la fois, je me kiffe de ouf. Donc, et tous les soirs, tu vois, je me couchais et je lisais mon carnet, j'étais là. Et donc ça veut dire ça. Enfin, franchement, j'ai appris tellement de choses et puis tu vois, en fait, j'aime bien savoir, tu vois, par exemple, elle dit, et il se coucha dans son giron, et elle dit giron au moins 8 fois par livre, ce qui n'arrive jamais, tu vois. Et donc, je suis un peu contente, j'ai un peu l'impression de faire partie de la communauté privilégiée de cette autrice qui comprend son vocabulaire et qui sait qu'elle va utiliser tel mot à tel moment. Donc, c'est valorisant pour moi en tant que lectrice.
Mais est-ce que tu trouves pas ça chiant qu'il y ait... Enfin, c'est plus rare et plus difficile à trouver les communautés de fans pour des bouquins et des auteurs et des autrices par rapport à, genre, t'es fan d'une série. Genre, moi, je suis fan d'une série, je sais où aller pour lire des gens qui aiment bien et qui commentent et tout. Mais les bouquins, genre là, bah, j'en ai parlé dans LMK, je suis sur Ken Follett. Ça va que le mec est maxi connu. Mais en soi,
c'est Harlan Coben
seule,
tout à l'heure.
Non, parce que j'en ai parlé dans LMK, un autre LMK que t'as pas écouté, du coup, car tu n'étais pas dedans.
C'est très grave.
C'est... En même temps, je fais pareil. Du coup, bah, Ken Follett, il a fait des best-sellers et tout, Les Piliers de la Terre, il y a une série, machin, mais en fait, c'est pas du tout actuel. C'est sorti en 2009 ou 2010. On s'en fout, quoi. Vraiment, on s'en fout maintenant. Et du coup, bah, j'ai personne à qui en parler, tu vois, de ah, trop bien et tout, machin. Le priori, est-ce qu'il va tenir? Je suis solo dans mon délire. Et ça me rend un peu triste parce que pour moi, un des côtés cool de rentrer vraiment dans une œuvre, bah, c'est l'aspect communauté. Et je trouve que pour les bouquins, c'est difficile, quoi.
Alors moi, c'est précisément l'inverse, parce que je comprends pas ce truc de communauté. Moi, j'aime bien avoir l'impression d'avoir une relation exclusive avec la personne qui crée et avec un contenu. Ce qui fait que moi, je déteste que les gens aiment les mêmes trucs que moi.
Je pense que c'est parce que t'es fille unique et moi, non. C'est peut-être vrai, alors... parce que je pense exactement la même chose.
C'est vrai. Ben non, mais tu vois, ou alors les gens que j'ai choisis, mes amis, mes collègues, mon mec, ma mère, ça s'arrête là, les autres, je suis
les LM Crado.
Niquez-vous, vous méritez pas. Les LM Crado sont mes amis. Et donc, je me suis empressée de le filer à mon mec, qui a beaucoup aimé, mais qui a beaucoup moins ri. Et je pense que c'est juste parce que la langue le touche moins. Lui, il a besoin d'un récit qui va l'emmener, et de quelques hélicoptères, on va pas se le cacher. mais voilà. Et donc juste, pour terminer sur sa bibliographie, le dernier livre que j'ai lu, et j'ai voulu m'arrêter après ça, parce que c'était tellement une claquasse dans ma gueule que j'étais là, bon là on va s'arrêter, ça s'appelle Les Garçons de l'été. En fait, elle publie aussi sous un autre nom, elle s'appelle Rebecca Ligieri, et c'est des romans plus noirs, vraiment plus polars, et c'est vraiment chelou en max. Et là, donc très rapidement, c'est l'histoire d'une famille. Donc t'as une mère, un père, deux garçons et une fille, et les deux grands garçons ont 18 et 20 ans, et sont des surfeurs de ouf. Ils habitent à Biarritz, ils sont trop beaux, grands, blonds, tout le monde les adore, machin. Et en fait, un jour, ils partent tous les deux à La Réunion faire du surf, et le grand de 20 ans se fait bouffer la jambe par un requin, se fait rapatrier en France, et en fait, toute sa famille se rend compte
que ce gars-là est en train de sombrer, fils de chien de l'extrême. Sauf que, comme on alterne les points de vue dans ce bouquin, c'est à chaque fois un personnage, un point de vue, sur l'histoire, tu te rends compte que ce gars-là a toujours été un sociopathe au dernier degré.
Mais comme avant, il était BG.
Exactement, personne s'en était rendu compte.
Ça passait crème, quoi.
Tout à fait. Et là, qu'en fait, il est estropié, on se rend compte que ce gars-là a toujours été un chien et un Hitler en puissance. Et a violé des meufs et tout. Et en fait, les meufs qu'il a violées décident de se liguer contre lui pour lui tatouer la gueule avec un nez de clown. Et en fait, ce gars-là se met à se métamorphoser en clown et se met à ramper chez lui, à traumatiser sa petite sœur. Enfin, c'est barjo.
Ça a l'air terrifiant et trop bien.
C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et voilà, donc je vous conseille à tous les romans de Emmanuel Abayamaktam et Rebecca Ligieri, qui sont en fait une seule et même personne. Et j'en ai même parlé sur mon compte Instagram, sachant que je fais plus rien sur Instagram, c'est vraiment que je la kiffe. J'en ai même parlé sur Instagram en plein milieu de mes vacances et j'ai plein de gens qui m'ont répondu. Comme c'est des gens de ma communauté, j'ai accepté qu'ils aient aimé les mêmes choses que moi. Et les gens étaient là, mais non, mais meuf, mais dingue, trop contente que t'en parles, parce que personne n'en parle jamais.
Enfin, c'est connu, c'est...
Bah, je croyais que c'était pas connu. En fait, il y a quand même quelques gens qui connaissent, et notamment Capucine Delattre, qui avait fait un podcast chez nous et qui avait fait ma première édition des ateliers d'écriture, que j'admire beaucoup, qui est une autrice de 18 ans, qui a publié son premier roman à 18 ans, et qui m'a dit, c'est mon autrice préférée, elle est vraiment extraordinaire, meuf, je peux jamais en parler, donc on en a parlé. Voilà, donc lisez cette femme, et n'en parlez pas trop autour de vous, s'il vous plaît.
Tu viens d'en parler dans un podcast.
Un peu confidentiel, il est vrai. Bon, on a 2-3 auditeurs, quoi.
Gardez ça pour vous, voilà.
Merci, Cal, voilà. Ça donne très envie. Ça m'emmerde parce que j'avais prévu de enfin lire La Roue du Temps, qui est une énorme saga de SF, parce qu'ils ont sorti la bande-annonce de la série. Je veux le lire avant, mais je vais peut-être squeezer un petit... tu vois, je finis Les Piliers de la Terre, là, j'ai bientôt fini la trilogie. Je vais peut-être squeezer un petit Arcadie, et après, on repart sur...
Je l'ai dans mon sac.
Ok, deal, ça marche. Merci Kalindi.
Je vous en prie.
À mon tour, pour finir, mon kiff est une série télé, mais pas dans le Hate Watch cette fois-ci.
Je sais ce que c'est.
Alors j'ai hésité et finalement je vais rester sur l'idée que je t'avais dit, parce qu'il y a deux séries dont j'aurais pu vous parler, mais voilà, j'ai choisi une série, et je l'embrasse, conseillée à moi-même par Fabrice Florent, qui je pense va écouter cet épisode car tu lui manques dans Laisse-moi kiffer Kalindi. Oh. Donc je le dis au micro, c'est Fabrice Florent qui me l'a conseillé, et j'ai mis un peu longtemps à l'écouter comme d'habitude, parce que des fois quand le pitch me convainc pas, je suis là, ouais, one day. Et en fait, et ben comme souvent, c'est une bonne reco, c'est une série que je ne voulais pas regarder parce que c'est une série sur le sport. Et j'étais là, bah du coup, non merci. Mais en vrai, c'est pas une série sur le sport. C'est Ted Lasso, qui est une série qui en est à sa saison 2, c'est sur Apple TV. Oui, c'est Apple TV+. Et c'est donc le pitch, c'est un coach de football américain qui est débauché par une équipe de football britannique. Ce n'est pas le même football, rappelons-le. Oui. Les Américains ont des protections et jouent avec leurs mains. Nous, on joue avec les pieds et on n'a pas de protection à part des protège-tibias. Et il est dépêché pour devenir le coach d'une petite équipe de Ligue 1, certes, mais quand même bas du panier britannique. Et il y va parce que bah, lui, il a des problèmes avec sa femme pendant ce temps-là. Il se dit c'est un challenge intéressant et tout. Et il arrive dans le club et on se rend compte que la boss du club, en fait, elle, c'est une dame un peu âgée, un peu ultra riche et tout. Et en fait, elle vient de divorcer de son mari. Et dans le divorce, elle a eu le club et elle veut juste ruiner le club pour foutre le seum à son ex-mari. Parce que c'est un milliardaire et c'est le seul moyen qu'elle a de lui foutre un peu le seum. Et donc, elle a exprès engagé un coach américain en se disant ça va jamais marcher.
Du mauvais foot.
Et ça va ruiner l'équipe et mon ex-mari, ça lui fera bien la bite. Sauf que Ted Lasso arrive et Ted Lasso... il est optimiste. Et Ted Lasso, c'est la série la plus feel-good du monde. C'est genre l'anti-Black Mirror, ou Black Mirror, le postulat, c'est toujours le pire scénario possible et les pires réflexes humains possibles. Ted Lasso, c'est l'inverse. C'est une série qui prône genre la bienveillance, la communication, la vulnérabilité, l'empathie, Burke. Et tout ça. Et ça arrive à pas être cucu, ce qui est quand même incroyable. Je ris aux éclats parfois devant des vannes de Ted Lasso, c'est vraiment très très bien écrit. Le cast est, je sais pas, très talentueux, mais sans justement tomber dans cette mièvrerie un peu facile. Je pense que ça aide que ça soit pas que américain. Je pense que cette histoire aux US, c'est très vite très... oh là là, Land of the Free, Home of the Brave, God Bless America, avec le drapeau qui flotte. Là, c'est au Royaume-Uni, et il y a beaucoup d'autodérision sur le Royaume-Uni, le rapport au foot au Royaume-Uni, en plus, enfin voilà, c'est un petit club. Il y a plein de joueurs de plein de pays différents qui sont joués par des acteurs de plein de pays différents. Donc, par exemple, le footballeur français n'est pas un anglais qui essaye de parler français comme souvent.
Yes.
C'est un bon vrai français qui dit « ferme ta gueule » dans les vestiaires.
Voilà.
Merci, enfin, merci à Apple TV.
Peut-être
le moment de dire que des très bonnes séries sont sur Apple TV et que peu de gens le savent, donc ce n'est pas sponsorisé non plus, même si Apple n'hésitait vraiment pas, tout comme Biocop, mais c'est pas cher en plus, il y a vraiment des bons contenus. Et donc Ted Lasso, c'est juste à chaque épisode, enfin c'est donc des épisodes d'une demi-heure, c'est pas de la sitcom, c'est pas du format long, c'est un peu entre les deux, c'est très snackable à la pause déj. Ça sort une fois par semaine, donc il n'y a pas le côté bingeable, même si du coup j'ai rattrapé un peu en retard, j'ai bingé toute la saison 1, et je suis contente de faire la saison 2 avec un peu plus lentement. Et c'est juste des histoires de vie, donc t'as pas mal de membres de l'équipe, t'as le joueur star mais qui joue perso et qui est vraiment un petit con, et du coup bah, Ted Lasso il voit qu'il a du bon en lui mais il est en train de tirer toute l'équipe vers le bas, donc qu'est-ce qu'on en fait, parce que certes il met des buts mais dans les vestiaires il est odieux avec tout le monde et du coup les autres talents peuvent pas se révéler, t'as un footballeur plus âgé qui était une légende, qui maintenant est un peu trop vieux pour être une légende et qui est très taiseux. Très grande gueule, enfin pas très grande gueule, mais très faut pas le faire chier sinon il va te mettre un pain. Donc lui plus le petit con, ça fait des étincelles. T'as Ted Lasso qui essaye de s'intégrer dans la société britannique et évidemment, enfin l'annonce de son embauche est très mal prise. Tous les supporters le détestent, ils l'appellent Wanker dans le stade, ils scandent Wanker dès qu'il prend une décision. Mais quand ça marche, ils sont contents. Et genre, il va au pub, il y a les mêmes supporters qui l'insultent au pub, qui sont là, salut Ted, ça va, tu vas prendre une bière? Et après, ils sont là, wanker! Et il est là, ok, c'est le jeu, tu vois, c'est... on est potes, et puis dans le boulot, quand je fais du foot, des fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et en fait, je pense que j'aime bien Ted Lasso parce que c'est un peu c'est une série de managers. C'est une série sur comment manager des gens, et comment révéler leur potentiel, et comment faire bosser des gens ensemble pour qu'ils se tirent vers le haut, et comment une seule petite poussière dans l'engrenage, parfois ça peut avoir des conséquences folles. C'est pas une série qui est faite pour être réaliste. Vraiment, ça finit toujours bien. Les gens font toujours le truc intelligent et bienveillant, même si des fois ils mettent un peu de temps à y venir. Dans la vraie vie, t'as des gens, ils mettent trop de temps, ou alors ils n'y viennent pas, et t'es obligé d'aller de l'avant quand même. Mais justement, je trouve que c'est cool de voir une série qui assume autant son optimisme, surtout dans la période, la conjoncture actuelle, sans devenir cucu. C'est vraiment un fil très délicat, ouais. Je trouve, à naviguer, et ils y arrivent trop bien. Il y a des personnages féminins cool. Il y en a donc le petit con, il sort avec une meuf qui est clairement une influenceuse croqueuse de footballeur, et c'est pas du tout un personnage stéréotypé. Elle est très smart, elle lui met un peu le nez dans son caca. Il n'y a pas beaucoup de scènes de cul, mais genre la seule relation sexuelle qu'ils ont, c'est...
Attention à tes transitions, quand même. Elle lui met dans son caca. Scène de cul juste derrière, je suis désolée. Non.
Non, enfin voilà, elle sans le mener à la baguette, elle ne se laisse pas faire non plus. Elle n'est pas en pamoison devant lui parce qu'il est jeune et connu. Il me semble que la seule scène un peu explicite de cul dans Ted Lasso, c'est lui qui fait un cunilingus, enfin le footballeur star du coup, qui fait un cunilingus à sa meuf, ce qui est quand même assez rare pour être signalé, même en 2021. Et donc voilà, il faut pas le prendre comme une série réaliste, mais c'est vraiment, tous les épisodes, c'est what if, en fait. Oui, il y a des galères, oui, il y a des choses qui se passent pas comme on veut, oui, des fois on perd le match, des fois on perd les sponsors, des fois il y a telle embrouille, parce qu'en plus, du coup, la boss du club, qui à la base veut ruiner le club, bah évidemment, au bout d'un moment, elle a Ted Lasso sous le nez, qui est trop sympa, qui arrive à trouver le truc par lequel il va avoir son affection et qui grignote petit à petit. Et elle le voit faire, elle est là, il fait chier ce con, parce que j'ai pas envie de le laisser faire, mais c'est sympa en fait, il est sympa, j'ai un peu envie qu'il réussisse. Et que ces trucs qu'il dit sur en fait les gens peuvent bien s'entendre et ça peut bien se passer, mais j'ai un peu envie que ce soit vrai, et comme ça j'arrêterai d'être vénère contre mon ex-mari. Donc il y a plein, tu vois, tous les faits que cette personne fait autour d'elle. Et c'est une très bonne série. Du coup, voilà, il était temps d'en parler.
Comment il s'appelle ? On l'adore. J'arrive
c'est Jason
jamais à
Sudeikis.
On l'adore.
Oui. Qui ça ? Moi, je connaissais plutôt donc Jason Sudeikis qui joue Ted Lasso.
Ouais.
Pour moi, c'est le mec du Saturday Night Live et de Very Bad Trip. Il a fait pas mal de grosses comédies US comme ça. Donc, c'est pas vraiment le mec que tu vois dans ce genre de rôle. Il est pas connu pour. C'est pas Tom Hanks, tu vois. Il est connu pour être genre la bienveillance incarnée. Il a fait vraiment des rôles plus trash. Et là, c'est juste lui avec... il a une petite moustache, il a toujours une petite chemise bien repassée sous un petit pull. Et il fait de son mieux, quoi. Et des fois, il rate, et des fois, il merde, et il est humain aussi. Mais il fait de son mieux, et il pense que tout le monde fait de son mieux. Je suis là, c'est une belle vision du monde. Et qu'on voit pas très souvent à la télé, parce que c'est souvent juste cucu et chiant. Donc, chapeau d'avoir réussi à faire pas cucu ni chiant, mais très optimiste.
C'est trop chou.
Ça a l'air trop bien. Franchement, chaque fois que je vois passer, je suis là, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est
bah,
pas pour moi.
Il faut quand même dire que ça parle relativement peu de foot. C'est-à-dire, t'as pas besoin de connaître le foot. Mais
excusez-moi,
ça
parce que moi, le football, c'est ma nouvelle passion en fait. Donc,
c'est vrai que maintenant tu es une footix.
T'es une footix, Cal.
T'as regardé France Finlande mardi ?
Eh bien, non.
Voilà, voilà. Donc Ted Lasso, il y a deux saisons, enfin la deuxième saison est en cours, elle est bientôt finie puisqu'on est déjà à l'épisode 8 je crois au moment où je vous parle. C'est sur Apple TV, je pense, enfin et c'est un carton aux US. Donc au moins aux US et puis mondialement mais surtout aux États-Unis. Donc la bonne nouvelle c'est que ça va sûrement être renouvelé quelques années je pense avant de finir. Mmh. Voilà, si les bonnes vibes vous manquent, Ted Lasso.
Ça a l'air trop bien. J'aimerais juste qu'on arrête de donner des noms de séries qui sont des noms de gens. Ça m'agace
ouais,
profondément.
Moi aussi.
Voilà.
Wow. Je suis d'accord. Il pourrait mettre un meilleur nom à cette série.
Ah bah franchement.
Je suis dans ta team.
Parce que franchement, tu vois Ted Lasso, je suis là, c'est qui ce connard encore, tu vois enfin...
Mais ce qui est marrant, parce que c'est un peu le réflexe que tout le monde a dans la série quand ils sont confrontés à Ted Lasso, c'est qui ce connard avec son nom de con.
Ils auraient dû l'appeler Wanker, la série.
Ils auraient dû l'appeler Wanker.
De
la série.
Ça aurait été
mais voilà, cool. Mais réfléchissez un peu.
Mais pensez
voilà,
aux références Google. Moi. On peut pas appeler sa série Branleur Enfant. Il y a trop de bruit sur Google. Après, ça marche pas.
Ouais, c'est clair que tu tapes Wanker série football. Bon.
Wanker UK. Tu peux tomber sur des choses. Wanker Apple. Ne faites pas ça chez Google. Ted Lasso Apple TV. C'est
mais
mieux.
Mais si, Mimi, elle avait dit, mettez le nez dans son caca à un moment.
Je ne suis pas responsable de vos interprétations, mais je pense qu'il est temps de finir cet épisode. Vous ne le savez pas, mais en coulisses, nous avons extrêmement chaud.
Extrêmement.
Je vous rappelle qu'il y a, et j'informe Kalindi aussi, qu'il y a actuellement, et pendant encore une semaine, à l'heure où cet épisode sort, un concours, puisque nous avons décidé de permettre au LM Crado de choisir la nouvelle phrase de fin de ce podcast. Car tu sais que je suis incapable, politiquement, de dire le slogan de fin d'avant. Donc je me suis dit, plutôt que d'en imposer un nouveau, je vais demander au LM Crado de proposer les leurs. Donc à l'heure où cet épisode sort, ça fait une semaine que vous pouvez participer, vous avez encore une semaine pour le faire, et comme ça pour le live Laisse-moi kiffer du 23 septembre, on révélera en exclusivité sur Twitch la nouvelle punchline de fin de Laisse-moi kiffer.
Ça veut dire que du coup on dit plus...
Tu peux le dire si tu veux, mais moi je ne le dirai pas et du coup ça va.
Ah oui, si change alors on va.
Mais on va en trouver une autre. Mais si okay. Tu veux faire plaisir aux gens et te faire plaisir, tu peux
non,
le
je
dire.
Je ne le ferai pas seule.
Moi j'aime pas cette phrase non plus, j'ai pas envie de la dire.
Non,
je l'ai fait une fois.
Je
pensais que j'avais pas d'a priori. Je l'ai fait une fois et en le disant, j'étais là, ah non, ça m'arrache la bouche. Genre ça me dégoûte.
Pas d'a priori, je l'ai dit et j'ai eu envie de vomir.
C'est plus que c'était.
C'est comme goûter un aliment, tu vois.
Alix, elle a tenté de lancer un putsch sur son Instagram en disant que c'était une hérésie.
Pour nous empêcher de changer.
Bah je suis un peu d'accord.
Bah, garde la pêche, Alix. Hein, il fallait rester chez Mademoiselle si tu voulais rester chef des podcasts.
Et voilà.
C'est moi.
Mais vas-y, tu peux le dire, Cal.
Attendez, on n'a pas fini.
Ah, pardon.
Deux, trois infos. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Mathis. Merci, Kalindi. Welcome back pour cet excellent épisode. Merci à vous, les LM Crado, toujours fidèles au poste. Pour les commentaires et dédicaces écrites, c'est sur
Apple Podcast
avec
5 étoiles.
Et pour les messages boubou, les messages réré, les jingles et dédicaces audio, une seule adresse. Laisse-moi kiffer. @mademoiselle.com. Et en attendant, la semaine prochaine,
touchez-vous bien le kiki!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.